justifie totalement que l'espace Mendes France ait reçu en 2008 du ministère de l'Éducation nationale le label Sciences, Culture et Innovation. Il faisait partie du premier groupe des centres de culture scientifique, technique et industrielle être ainsi labellisé. Et c'était une reconnaissance d'une programmation de qualité, bien sûr, mais diversifiée, qui associe les compétences de champs disciplinaires variés, on l'a vu aujourd'hui, les compétences aussi du milieu associatif. Toute forme d'expertise. Alors, le directeur général de l'Espace Mendes France a parlé de nos soirées consacrées à la laïcité et l'immigration. Il a oublié très récemment la soirée consacrée au handicap. Donc, c'est une nouvelle forme de programmation de 17h, 22h, voire 24h, où on a des débats, quelques conférences générales, mais des débats où toutes les expertises sont croisées. Et en fait, on traite depuis quelques années, ça va se densifiant, on traite de la complexité des interrogations du citoyen d'aujourd'hui. Et on ne peut répondre à cette complexité en ayant une vue unique, d'une discipline unique ou d'une compétence unique. Et je crois que le travail qui est initié par la région est mis en œuvre et soutenu par Mendes France de ce recueil de mémoire ouvrière est exemplaire de cet esprit nouveau d'une programmation d'un centre de culture scientifique. Donc moi, je suis ravi, je suis désolé pour les deux conférenciers. Ce matin, j'étais pris par ailleurs, je n'ai pu suivre les deux dernières conférences. Mais on m'a dit tout le bien et on m'a donné beaucoup de regrets. Et donc, il me tarde d'écouter nos conférenciers cet après-midi. Merci de votre présence et par anticipation, merci à vous.
Merci. Donc, je rappelle le programme. Je ne sais pas si ça marche là, mais ce n'est pas bien grave pour moi. Je rappelle le programme de cet après-midi, puisque donc les choses ont été un petit peu chamboulées. Donc, ce que nous allons avoir maintenant, ça correspond bien au dernier programme que vous avez entre les mains, avec Éric Cochère-Marbeuf, qui va nous parler de la tradition ouvrière des beurriers de Surgères. J'ai cru comprendre que ce n'était pas exactement ça, mais il nous le dira. Et puis, donc, ensuite, nous aurons ce qui était prévu ce matin et qui a donc été inversé, c'est-à-dire, nous parlerons enfin, je dirais, du cœur même du travail industriel avec Billancourt, Emmanuel Dupuis et Patrick Fetter, accompagnés par Gwenaël Roux. Et puis donc, nous conclurons avec un exposé de Pascal Moidon-Pouvreau, qui est chargé d'une opération d'inventaire des mémoires ouvrières dans la région, donc qui nous parlera de l'état de ce travail. Et donc là, je crois que nous aurons fait un beau parcours autour de la question posé aujourd'hui. Voilà, donc je passe tout de suite la parole à Éric Cochère-Marbeuf.
Bien, merci monsieur le Président. Donc je dispose à peu près de 20 minutes, c'est ça?
Oui, ben bon, écoutez, il est 15h45, on a pris donc un quart d'heure de retard comme convenu. Nous avons jusqu'à 15h15 exposé et questions.
D'accord. Bien, alors effectivement, le titre de cette intervention sur la mémoire ouvrière des beurriers de Surgères ne correspond pas exactement à ce que je vais vous développer. D'ailleurs, c'est intéressant parce que est-ce qu'il existe au sens plein du terme une mémoire d'ouvriers à l'intérieur de ces beurreries coopératives dans notre région, parce que ce sont de petites unités de production qui se développe à partir de la fin du XIXe siècle. Je vais revenir dans quelles conditions. Et finalement, beaucoup des hommes et de quelques femmes qui travaillent à l'intérieur de ces beurreries ne se pensent pas, je crois, en tant qu'ouvriers. Ils n'ont pas une conscience, on va dire, une conscience ouvrière. Et d'ailleurs, à telle enseigne que le syndicalisme y est absent, quasiment absent, encore jusqu'à nos jours. Donc c'est un premier point. Surgères parce que lorsque l'on ne connaît assez mal les choses, on a tendance ici dans la région à parler du beurre de Surgères, de rassembler sous l'appellation d'origine contrôlée du beurre Charente-Poitou. Et quand on dit Charente-Poitou, c'est qu'on inclut le département de la Vendée dans l'ensemble géographique, parce que c'est celui de l'association centrale des laiteries coopératives des Charentes et du Poitou, qui fut fondée à l'extrême fin du XIXe siècle à Niort, et dont le siège d'ailleurs resta très longtemps à Niort, et dont le laboratoire, puis le début de l'école de laiterie, s'implanta au début du XXe siècle, autour de 1904-1905, à Surgères. Surgères étant, du moins un petit village à côté de Surgères, Chaillé, au nord de Surgères, le berceau du mouvement coopératif laitier dans notre région. C'est là, en effet, que un cultivateur déjà relativement âgé, en 1888, Eugène Birot, va proposer à d'autres agriculteurs de ce petit village de s'associer, selon le mode dans la légende locale, des fruitières du Jura, parce qu'il aurait été un ancien de l'armée de Bourbaki, un temps déporté en Suisse, et qu'il aurait appris, donc au contact des Franc-Comtois, la méthode de transformation du lait en fromage et fromage en beurre. Mais si vous voulez, ça c'est la légende que l'on trouve même dans la documentation officielle. Mais personnellement, je n'ai jamais eu de papier vraiment en main me disant exactement comment l'idée avait germé chez Eugène Birot. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'effectivement une coopérative est créée en 1888 et qu'elle va entraîner en l'espace d'un an la fermeture de la beurrerie industrielle qui venait de s'établir à Surgères à l'initiative d'un privé, parce que les agriculteurs vont préférer tout de suite apporter leur lait dans un pot commun pour valoriser, on est vraiment au cœur de l'actualité, valoriser le prix du lait au litre et en assurant sa transformation en beurre, engranger le maximum de bénéfices de cette transformation. Alors cette mutation en fait de l'agriculture de la Charente, là, de ce nord de Charente maritime, se fait dans un contexte dramatique de crise sociale et économique. C'est la crise du phylloxéra qui commence à frapper le vignoble charentais autour de 1875 dans la région de Saintes, et qui va ruiner en l'espace de quelques années tous les viticulteurs qui presque exclusivement faisaient un petit vin local, du côté également de la Foix Mongeau au sud de Niort. Ces hommes sont incapables d'assumer le changement. Ils sont incapables d'assumer la perte de la vigne et de se reconvertir, de faire autre chose. Ils vont vendre leurs terres à vil prix à des Vendéens, au ventre à choux, comme on les appelait de façon péjorative dans la région, qui vont arracher avec beaucoup de courage les ceps de vigne et qui vont y introduire l'élevage. Et ce sont les Vendéens qui vont finalement se lancer dans l'aventure de la transformation ensuite des produits du lait. On était plutôt dans des traditions de polyculture dans le berceau initial de la naissance du mouvement, c'est-à-dire la région du Marais Poitevin ou des environs de Niort, et en particulier la commune que j'ai le plus étudiée parce que j'y habite et qui est Échirée. Si je me suis intéressé à cette question alors que je viens d'histoire politique de la Ve République, c'est que j'ai voulu comprendre mes contemporains lorsque je suis arrivé dans cette commune il y a tout juste 10 ans. Et naturellement, parce que je connaissais le beurre d'Échirée tel qu'il était vendu comme produit de luxe à Paris, sur les marchés ou bien chez les spécialistes de fromage. Donc là, j'avais la chance de pouvoir m'intéresser directement à l'histoire de cette petite entreprise qui est toute petite encore aujourd'hui, qui ne paye pas de mine, vu d'ailleurs de l'extérieur, malgré des travaux qui viennent tout juste de s'achever. Donc on va retrouver à travers Échirée le modèle d'organisation et donc les métiers que l'on trouve également dans des dizaines d'autres coopératives de tous les départements donc de notre région, y compris donc de la Vendée, y compris également d'ailleurs de l'extrême nord de la Gironde, puisque l'association centrale a aussi eu quelques laiteries ressortissantes dans le nord de la Gironde, voire également en Haute-Vienne. il y a très peu de métiers, parce que finalement, ce sont des structures qui sont très légères. Donc, on ne peut pas vraiment dire que ce sont des usines à la campagne, bien que ce qui va symboliser la puissance de la laiterie, c'est quand même sa cheminée, qui est souvent assez haute et qui est finalement le deuxième clocher après celui de l'église. Deuxième clocher, d'ailleurs, souvent clocher républicain, parce qu'on s'aperçoit que ces coopératives vont accompagner également l'enracinement de la République, c'est-à-dire que le projet coopératif, c'est un projet de la démocratie participative, par le biais justement de l'Assemblée générale des sociétaires, et de la démocratie parlementaire, avec l'élection du conseil d'administration, de son bureau, et donc l'apprentissage un petit peu en parallèle avec l'instauration donc du parlementarisme de la Troisième République, on a vraiment une réplique de ce système de fonctionnement où on essaie d'avoir une transaction, une forme de transaction par la parole, là des intérêts économiques des individus, puisque ce qui est très intéressant, c'est que quel que soit le nombre de bêtes, il n'y a pas de vote plural et qu'il y a une égalité entre les votes des sociétaires. Hein, on n'est pas donc dans un régime capitaliste où en fonction du nombre d'actions que l'on détient de la société, on a un vote plus ou moins important. Et même si cette notion de démocratie pourra être à un moment donné peut-être un vecteur de ralentissement du progrès, on pourrait en tout cas le penser, parce qu'en se disant que les intérêts des plus faibles alors vont être surreprésentés et face aux enjeux de modernisation où il faut avoir les reins financiers assez solides, cette question se présenteront effectivement dans les années d'après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 1950-60, avec la PAC, et en fait ça sera plutôt les impératifs normatifs imposés par Bruxelles et Paris via la PAC, qui va jouer ce rôle alors de nivellement par le haut et d'alignement par le haut au détriment des plus humbles. Mais pendant longtemps, ça n'a pas du tout fonctionné ainsi. J'ai eu l'occasion, il y a de ça un peu plus de deux semaines, d'évoquer devant d'autres collègues à Limoges l'originalité également du système de répression des fraudes sur le lait par coupage, par écrémage, où on voit que au sein de le conseil d'administration de ces laiteries joue le rôle également de tribunal face aux fraudeurs et où on apprend finalement un petit peu comme dans la justice civile ordinaire, sauf que c'est une justice qui est corporative et qui est en amont du système judiciaire, on va dire classique, hein, puisque si jamais ils n'arrivent pas à s'entendre entre eux, ça va quand même aller devant le tribunal d'instance. Là aussi, on voit qu'il y a une forme de justice populaire qui se met en place, où le corps social des sociétaires va exclure les brebis galeuses, celles qui trichent, parce qu'il suffit de tricher dans une collecte sur quelques dizaines de litres de lait pour commencer à mettre en péril l'ensemble de la production de la laiterie, d'une production quotidienne et de la qualité du beurre obtenu. Donc là, il y a une certaine férocité qui, dans les jugements, qui vont s'adapter au fil du temps, mais les sanctions au départ sont très lourdes, c'est toujours l'exclusion, avec des amendes d'environ 1 000 francs germinales, 1 000 francs d'avant 14, donc très lourdes, et ce qui signifie en plus la honte sociale, l'opprobre lancé sur le nom d'une famille, et même si on n'en a pas forcément la trace ensuite dans les archives de la laiterie, sans doute le fait de devoir vendre ou en tout cas de vivre un petit peu au banc de la société villageoise. Il faut savoir que les laiteries entre elles peuvent également avoir des différends et que ces différends sont eux aussi arbitrés là par les instances, on va dire, fédérales, c'est-à-dire celles de l'association centrale qui joue également ce rôle. Alors, quelle est l'organisation de ces coopératives et donc des différents métiers ? Quand on travaille sur les comptes rendus, en particulier donc du conseil d'administration déchiré, on s'aperçoit qu'il y a d'abord, tous les ans, au moment de l'Assemblée générale, à l'issue de l'Assemblée générale, l'adjudication des tournées des laitiers. Et que donc le premier des métiers, c'est celui qui d'ailleurs est souvent rempli par des hommes qui sont également des sociétaires, mais pas toujours. Ce sont donc ceux qui sont chargés de la collecte quotidienne. Donc des tournées sont définies en fonction, donc on essaie de les faire de façon égalitaire, le plus égalitaire possible, en termes de distance et de difficulté à franchir un certain nombre d'obstacles naturels comme des gués, des côtes. Parce qu'au début, ça se fait, et vous le verrez tout de suite, avec des charrettes tirées par des chevaux. C'est un système d'adjudication, et on met donc des offres à l'année, le prix que l'on va demander pour effectuer la tournée pendant une année civile, et c'est l'offre qui est la moins gourmande qui obtient le marché pour l'année, à l'issue de l'Assemblée générale. À Échiré, on a une bonne dizaine de tournées. Elles sont redéfinies au cours du temps en fonction du nombre de sociétaires qui ne cessent d'évoluer et qui ne cessent de grandir en réalité. C'est un métier, donc si maintenant on s'intéresse à la mémoire du travail, le métier de laitier donc est un métier très exigeant parce qu'il exige d'abord de travailler tous les jours de l'année. Il n'y a pas de repos possible, ni dimanche, ni jour férié. C'est été comme hiver et on s'aperçoit d'ailleurs que les tournées hivernales sont parfois difficiles. Il y a beaucoup plus de neige manifestement qu'à notre époque parce qu'il est souvent fait mention au début du XXe siècle de tournées particulièrement difficiles dans les premiers jours de janvier ou de février à cause de la neige qui parfois atteint sous forme de congère des 50-60 cm. Donc de nos jours, ça paraît totalement extraordinaire. On voit également que les laitiers sont souvent des hommes qui présentent des caractères assez trempés. Ils sont chargés d'une mission d'abord de vigilance auprès de tous les sociétaires. C'est en effet de leur coup d'œil déjà au moment de l'ouverture des bidons de lait et lorsque la fermière, c'est toujours la femme qui s'en occupe, va verser le lait dans le réservoir ou qui va le donner, ou on va le maintenir dans certains gros bidons au départ, mais c'est le laitier qui a un premier coup d'œil pour voir déjà s'il y a suspicion ou non de triche. Il y a également de la part des laitiers pas mal de... c'est assez fréquent qu'on ait des occurrences de laitiers qui ont des heurts verbaux avec un certain nombre de sociétaires. Certains sont même coutumiers du fait, parfois sont sermonnés, rappelés à l'ordre, des fois on leur donne raison. Certains parfois perdent également un petit peu de temps dans les estaminets situés le long de leur tournée, ce qui pose des problèmes parce qu'il faut alors les rappeler à l'ordre parce qu'ils arrivent trop tard à la laiterie. Et on voit donc, j'évoque la situation là autour des années de la Belle Époque, entre 1895 et 1914, il va y avoir bientôt, il n'y a pas véritablement d'évolution de leur métier jusqu'aux années, à la fin des années 1930, et on va voir l'apparition pour la première fois d'un certain nombre de véhicules automobiles, de camionnettes, qui leur servent ensuite pour transporter le lait. La mécanisation, l'esclave domestique et le moteur à explosion pour le transport, remplaçant le cheval, se fait autour pour le début de 1935, mais c'est souvent après encore la Seconde Guerre mondiale. Et naturellement, pendant la Seconde Guerre mondiale, à nouveau, c'est l'utilisation du cheval parce qu'il n'y a pas suffisamment de carburant disponible pour les tournées de laitiers. Le métier de laitier, donc c'est un métier qui, c'est là où on a le plus de traces, sans aucun doute, dans les archives. Ce sont eux qui sont les plus nombreux. Ils ont parfois des plaintes un petit peu corporatives, ça leur arrive, surtout après la Première Guerre mondiale, où ils estiment qu'ils sont perdants compte tenu des débuts de l'inflation. Phénomène qu'ils maîtrisent très mal, mais d'ailleurs comme tout le monde agricole et même la société en général maîtrise mal l'inflation, ils ont donc beaucoup de mal d'une année sur l'autre dans les adjudications à réévaluer les prix à leur juste valeur et ils essaient de demander des augmentations en cours d'année, ce qui pose un certain nombre de difficultés. D'après ce que j'ai cru comprendre, aujourd'hui, bien sûr, ce sont des salariés ordinaires. Parfois, certains sont encore chefs d'exploitation à mi-temps, parce que ce sont des hommes qui commencent le matin à 4 heures du matin, mais en gros, ils ont terminé leur travail vers 11 heures. Donc, l'après-midi, après la sieste, ils peuvent encore s'occuper d'une exploitation. Donc, ils travaillent énormément. Mais certains exemples, même encore à Échiré, le montrent. Leurs tournées, simplement, sont de plus en plus longues. Et là où les tournées du début du XXe siècle étaient des tournées qui faisaient, mettons, jusqu'à 8-10 km, aujourd'hui, ils ont parfois des tournées qui font 60-80 km. C'est parce que le ressort de la laiterie s'est nettement élargi par la fusion, la disparition de toute 95% du nombre de laiteries par rapport à ce qu'elles étaient au début du XXe siècle. Alors, dans les laiteries, historiquement, on trouve ensuite, dans les installations mêmes, alors, à sa tête, on trouve un personnage qu'on appelle le directeur comptable. Le directeur comptable, qui n'est d'ailleurs pas le mieux payé des salariés de la laiterie, c'est un personnage qui va prendre de l'importance à partir de l'entre-deux-guerres et surtout après la Seconde Guerre mondiale, et particulièrement dans le cas d'Échiré, mais Échiré étant un petit peu à part en termes de réputation. Le directeur comptable, comme l'indique son nom, c'est celui qui organise le service. C'est celui surtout qui tient à jour la comptabilité à une époque où les exploitants n'ont pas du tout cette habitude. Et ça va leur retomber dessus finalement très tôt au lendemain de la Grande Guerre parce que le fisc et surtout la justice, y compris parisienne, va s'occuper de près de regarder un petit peu les profits illicites réalisés par les laiteries durant la Première Guerre mondiale. Où un certain nombre de ventes masquées à des mandataires parisiens ou de ventes nettement au-dessus des prix officiels qui étaient réglementés ont eu lieu. Donc, on s'aperçoit que le directeur comptable est un personnage alors exposé d'un point de vue pénal, et ce qui va justifier d'ailleurs une réévaluation de ses émoluments. Il devient un impulseur de la modernisation, en particulier à Échiré avec un personnage capital qui s'appelle Abel Brault, qui est déjà en poste en fait avant la Seconde Guerre mondiale, qui est en poste pendant la Seconde et encore ensuite jusqu'aux années 1960, parce que c'est ensuite un petit peu le visionnaire, celui qui celui qui se tient au courant en permanence des évolutions, on va dire macroéconomiques du secteur, mais également des innovations techniques en participant aux foires, aux expositions, en voyageant beaucoup, en allant voir les mandataires. Il devient un petit peu directeur commercial. Également à partir des années 1960, et ce rôle est renforcé naturellement au niveau même mondial à partir des années 1980 avec les successeurs de Brault. Il y a au sein de la laiterie un autre personnage qui est pourtant le plus important, c'est un petit peu celui qui est l'assembleur de cognac, c'est-à-dire celui qui est responsable de la baratte, des opérations de barattage, le beurrier baratteur. Le beurrier baratteur, qui pendant longtemps est le mieux payé, j'ai peu de choses finalement à en dire parce qu'on en parle finalement assez peu dans les archives, en tout cas dans celles que j'ai eu à voir. Et pourtant, on reconnaît que c'est sans doute son talent, sa maîtrise du système chimique qui fait qu'une partie de la qualité du beurre lui est imputable directement. Et pourtant, il n'y a pas de marche, de mercato, comme on dirait aujourd'hui en sport. On n'essaie pas de s'arracher, comme le font peut-être certaines maisons de champagne ou de cognac, les responsables de cave ou d'assemblage. Donc, le beurrier baratteur reste en place bien souvent durant toute sa carrière. Et encore une fois, c'est un personnage relativement discret. On a d'autres personnages qui émergent, d'autres métiers au fil du temps. On a d'abord le chauffeur, alors qui est chargé à la fois de l'entretien et du fonctionnement de la chaudière, qui sert donc à faire fonctionner les appareils ensuite qui sont accouplés dans le processus de fabrication, et puis qui ensuite devient le chauffeur automobile de la camionnette qui est chargée de transporter le beurre de la laiterie jusqu'à la gare la plus proche, étant donné que l'association centrale affrète quotidiennement plusieurs trains en partance de Surgères, soit qui passent par Niort, par Tenay, Thouars, et qui remonte sur Paris, donc c'est Paris-Vaugirard, ou bien également la ligne par Saint-Mexant, et ensuite Poitiers, Lusignan-Poitiers, qui est l'autre ligne de train qui est cette aujourd'hui encore de la ligne Paris-La Rochelle. Donc là, on a un système donc d'un personnage. On lui demande simplement d'être juste à temps, comme on dit en anglais, celui du chauffeur. Autre personnage important, c'est le personnage du contrôleur, le contrôleur laitier, qui est créé souvent assez vite après les fondations de Laiterie. À Échiré, c'est environ 4 ans après la fondation, donc la fondation c'est 1894, donc vers 1898. Le contrôleur est celui qui emmène un petit matériel portatif avec des acidimètres, avec un certain nombre d'éprouvettes et de réactifs, pour, avec, soit par des contrôles inopinés au moment de la collecte, soit lorsque les suspicions de fraude sont plus avérées, avec un système qui est ensuite un protocole arrêté par le professeur Dornic, dont je vais parler dans quelques instants, de l'école de Surgères, un protocole donc de recherche de la fraude sur le lait. Le personnage du contrôleur est donc un personnage de responsable qualité, on va dire, qui peut aussi travailler à la laiterie ensuite, une fois que tout le lait est arrivé, parce que tout le lait est quand même identifié quasiment jusqu'au bout du processus, enfin avant d'être vraiment mis en commun pour la transformation. Et le personnage du contrôleur, son importance stratégique, on va dire, va rester grande jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ses missions vont ensuite changer et devenir beaucoup plus des missions liées à la qualité hygiénique, dont on ne se préoccupe pas tellement avant la Seconde Guerre mondiale, dans les années 1950-1960. Parce que finalement, à ce moment-là, il n'est plus possible de truander par du coupage avec de l'eau, avec du petit lait, etc. En revanche, on va traquer les laits mamiteux, les laits malades, les laits présentant bien sûr la tuberculose bovine, dont on ne se préoccupait guère avant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'ils étaient pourtant très dangereux, mais peut-être parce qu'on n'avait pas trop non plus les moyens de le faire. Et la pasteurisation, qui entre en application autour de 1900, pendant la Seconde Guerre mondiale, surtout va vraiment donc reconvertir le métier de contrôleur vers ce métier ensuite de contrôle a posteriori et hygiénique. Donc vous voyez, il y a quelques métiers, quelques professions pour une entreprise qui ne comporte pas énormément de monde. Alors j'ai ici, pour lire ma clé, je fais comment là ? Elle est dedans. Attendez, oui, voilà. Donc, je vais mettre poste de travail. Non, attendez. Oui, pardon, ordinateur. Alors, voilà. Alors, donc ici, ce sont quelques cartes, quelques photos. Je dis cartes, non, ce sont des photos qui viennent de la laiterie d'Échiré, à l'exception d'une de la laiterie de Coulon. Alors, incontestablement, la plus ancienne est celle-ci, qui nous montre les installations de la laiterie. On n'a pas été capable de me dire à la laiterie, mais on pense que c'est au début du XXe siècle. On voit le fameux barateur, Beurrier barateur, qui est en train de travailler, que la production, ce sont donc de grosses modes de plusieurs dizaines de kilos qui sont expédiés aux mandataires parisiens quotidiennement, qui sont redécoupés pour les utilisateurs terminaux sur place. Donc on a, Monsieur Vatin, je connais sans doute mieux le matériel que moi, en revanche, d'un point de vue technique. Parce que c'est pas une question que j'ai. Vous voyez des choses là qui vous parlent ou pas ?
Rien de particulier à dire, oui. Sur le...
Bon, on a déjà, si vous voulez, la présence de la. Jusqu'à nos jours, aujourd'hui elles sont plus grosses, mais on a la fameuse baratte en tech à Échiré. Elle reste encore aujourd'hui, il y en a deux. Donc ce sont les premières installations, vous voyez, donc qui sont accouplées à un système de chaudière à vapeur, donc le métier de chauffeur que nous avons, dont je parlais tout à l'heure. Alors ça, c'est l'évolution finalement dans les années 1970 et même encore 1980. Ça vient d'être complètement modernisé au cours de ces derniers mois. Donc ça, c'est le laboratoire maintenant. Mais vous voyez qu'il n'y a guère plus d'employés. Tout au plus, finalement, le plus grand nombre d'employés sont ces hommes qui sont chargés du conditionnement, puisque l'originalité de Déchiré, c'est d'avoir environ 80% de sa production qui est en version de petite recharge de, pour l'hôtellerie de luxe et la restauration de grand luxe, donc des petites recharges de 30-50 grammes. Qui représente 80% de la production déchirée. Donc ça, c'est une spécificité déchirée avec une, un automatisme, une automatisation complète, une robotisation complète de la chaîne de conditionnement. On n'est plus du tout dans les grosses mottes que vous avez pu voir au début du XXe siècle. Alors ici, on a donc la laiterie dans sa configuration postérieure. En fait, on est là dans les années 1920, bon, comme on atteste ici le, donc ce, ce véhicule qui est la première camionnette chargée donc, d'emmener les mottes de beurre dans des paniers en osier jusqu'à la gare qui est distante d'environ 3 km. Les fameuses charrettes de laitiers, vous en verrez d'autres tout à l'heure. Donc il y a une grande partie déjà du personnel ici qui est présente. Ces installations à Échiré, avec le quai ici de déchargement, ont été financés, grosso modo, on va dire, avec les profits réalisés pendant la Grande Guerre. C'est-à-dire que la laiterie qui était endettée à la veille de la Grande Guerre est suffisamment riche en 1918 pour ne plus avoir de dettes et pour financer dans la foulée une reconstruction complète de ces installations qui vont ouvrir deux ans plus tard. Donc il y a le sacrifice, d'ailleurs c'est un petit peu le discours que tiennent les agriculteurs sociétaires aux autorités judiciaires quand ils viennent enquêter en disant « nous avons », et il y a un superbe monument aux morts également, ils payent à leurs enfants morts pour la France un monument à l'intérieur de la laiterie en disant « voilà, nous avons eu des morts, maintenant vous nous fichez la paix par rapport... En plus, on a souscrit aux emprunts de la Défense nationale et aux prêts divers. Donc, qu'il y ait eu de l'argent qui soit fait peut-être, mais en même temps, c'est quelque chose qui est... Nous avons agi en, en patriote. Nous avons contribué quand même à alimenter la goutte de lait de Niort. Nous avons quand même... Et toutes ces questions sont un petit peu débattues par le romancier des Deux-Sèvres, par Ernest Perrochon, dont j'ai l'honneur de présider l'association de, du Souvenir. Et Ernest Perrochon, dans la parcelle 32, comme dans Les Gardiennes, évoque bien le rôle de, des agriculteurs, des agricultrices, dans la préservation des intérêts de la terre durant le premier conflit. Alors cette autre photo ici nous montre le grand rassemblement, ça c'est le matin vers 9-10 heures, le grand rassemblement donc des différents laitiers. Avec donc ces petites charrettes dont il existe encore quelques rares exemplaires de nos jours qui ont été conservées. Donc, ils vont, donc là, vous avez vraiment l'atmosphère quotidienne telle qu'on la trouve au début des années 1920. Avec donc, vous voyez, ces gros pots de lait qui font plusieurs dizaines de litres. Ici, donc, une scène typique donc de l'agricultrice. Je pense que là, je n'ai pas la date. Je suppose qu'on est quelques années avant la Grande Guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale, je veux dire, où donc on a l'agricultrice. Je trouve que cette photo est relativement moderne, moi. C'est ce qui me surprend un petit peu. Ça fait plus années 1950. Alors est-ce qu'ils utilisaient encore la charrette? Bon, on n'a pas été capable à la laiterie de me dater ça précisément. Bon, est-ce que c'était une scène qui a été reconstituée exprès ce jour-là? Je ne le sais pas, parce que je trouve que la petite comme la mère ont ça fait plus 50s qu'avant la guerre. Bon, j'aurais pu en trouver pour Échiré. Là, j'en avais un exemple. Ce sont les fameuses... c'est en fait un extrait du papier en tête, hein, de, tout simplement de la laiterie coopérative de Coulon, dont je crois le sort des archives a posé pas mal de soucis ces temps derniers. Donc on est dans le Marais Poitevin. Maintenant, on est dans la zone d'ailleurs de couverture d'Échiré. Avec donc le palmarès. Alors la fondation est antérieure à Échiré parce qu'on est plus près de Chaillé et de Surgères. On a un palmarès qui est en fait assez peu prestigieux en réalité, par rapport en tout cas à celui d'Échiré qui rafle les grands prix, et en particulier celui de l'exposition universelle de 1900. Mais Échiré obtient, si vous voulez, les plus hautes distinctions à partir de 1900 et des récompenses internationales. Il ne faut pas se leurrer, dans beaucoup de concours internationaux, il y a différentes catégories à chaque fois, et donc ils arborent des médailles d'or ou des médailles de vermeil, et on s'aperçoit qu'il y en a eu plusieurs de distribuées. Ce n'est pas la première médaille, pour autant, il y a parfois un petit peu une tendance à l'inflation dans les récipiendaires des médailles. Alors, donc, photo prise toujours de face de la laiterie, également avec les laitiers. On voit ici la bicyclette, vraisemblablement la bicyclette. Alors, il y avait deux bicyclettes. Il y avait la bicyclette du directeur et ensuite du comptable, et la bicyclette du contrôleur. La bicyclette du contrôleur ayant souvent, ce qui n'est pas le cas de celle-ci, des sacoches pour mettre le matériel de contrôle portatif qui était installé directement sur le vélo, avec des discussions épiques sur l'acquisition de l'affaire. Bon, donc, pardon, les photos, je les prends, elles arrivent un peu dans l'ordre par hasard où ça se trouve dans le fichier. Donc là, on est sur les opérations de barattage relativement contemporaines, c'est encore les mêmes aujourd'hui, en tout cas celles que j'ai pu voir il y a quelques années. Peut-être que là, mais je ne pense pas, je pense qu'on est totalement dans la même configuration. Donc, le but pour moi, ça serait effectivement d'aller interroger un certain nombre de ces hommes qui, aujourd'hui, sont soit avec une longue expérience et à la veille de la retraite, soit en retraite, et nous en avons un certain nombre, de faire une sorte d'enquête orale pour avoir une mémoire, parce qu'ils ne s'en sont jamais préoccupés. Lorsque j'ai évoqué ma venue ici, on n'avait pas grand-chose à me dire, parce que finalement, on travaille dans la laiterie sans se poser vraiment des questions fondamentales sur le sens à donner à sa vie, à son travail. On fait son travail et puis voilà, quoi. Donc, qu'on s'intéresse, que des historiens, des spécialistes de sciences humaines viennent, pour eux, c'est quelque chose de totalement un petit peu décalé, on va dire. Donc là, les opérations dans les années 50, vu les voitures de réception du lait, donc à la fois de pesage très fin pour voir un petit peu comment on rémunère tout ce petit monde, d'évaluation de la qualité sur le quai de réception. Aujourd'hui, ici, c'est le laboratoire, c'est complètement couvert, cette partie-là. Et puis, donc, je voulais montrer ici alors ça, c'est le travail également de tout à la base, c'était le travail du taureau partenais. Belle bête. Aujourd'hui, c'est plus une race à viande, mais il faut savoir que il y a eu, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et même au-delà, jusqu'aux travaux réalisés dans les années 60 par une spécialiste de l'INRA, venue de Paris, toute une thématique disant que la qualité du beurre dans cette région était redevable, en fait, de ces travailleuses que sont les vaches partenaises. Et il y avait d'ailleurs une commission des vaches étrangères, intéressant à l'heure du débat sur l'identité nationale, puisque les vaches, les blondes d'Aquitaine, les normandes, les bretonnes, les frisées, les flamandes, etc., étaient pourchassées, menacées d'abattage ou abattues, ou en tout cas elles devaient être vendues aussi secs. Et on se posait vraiment des questions parfois sur les croisements, parce qu'on disait que donc c'était vraiment une qualité, alors on ne disait pas génétique, mais que vraiment c'était la bête de la région faisait la qualité du lait et faisait, en association avec le terroir local, la qualité du beurre. Donc il fallait traquer tout ce qui était étranger. C'est très intéressant d'ailleurs d'un point de vue symptomatique de la mentalité collective, hein, cette forme de xénophobie de la vache contre les vaches étrangères. Et il a fallu donc attendre des travaux des années 1960 pour plutôt insister sur les qualités du sol, d'un certain nombre d'oligo-éléments présents dans le sol, alors où on était plutôt dans la haute vallée d'ailleurs de la Sèvre niortaise, et où on opposait d'ailleurs le nord de Niort au sud de Niort. Et alors même cette thématique-là, il faut savoir qu'elle est complètement tombée, parce qu'avec les fusions de laiterie, on est aujourd'hui à cheval sur plusieurs types de terroirs, Et on pourrait même pas ressortir ces études qui sont plus scientifiques, effectivement, si on veut aller regarder un petit peu du côté chimique, mais où le lait de Coulon, précisément, n'a pas grand rapport, en termes de sol, la pédologie à Coulon n'a aucun rapport avec celle des Chirées. Donc, on est obligé un petit peu de faire machine arrière, on ne présente plus du tout le produit sous cet angle ni de la génétique, ni des ressources naturelles. Et donc, oui, il faut, je vous dis, on est donc très loin finalement d'une notion, d'une conscience de classe, d'ouvrier, hein, comme vous le voyez. On est beaucoup plus dans un système, pardonnez-moi, mais qui est un système familial, puisque on s'aperçoit que les gens qui travaillent à la laiterie sont souvent quand même les mêmes membres des familles que ceux des sociétaires. C'est donc un système d'endogamie au sens large. C'est pas une race à part des ouvriers de la laiterie. Non, ce sont les mêmes gens. Et tout au plus, le directeur devient progressivement un membre de l'élite locale, des notables locaux et des notables politiques, parce que l'association centrale a toujours été une association dirigée par des parlementaires, députés et sénateurs des départements de la région, qu'elle a assis le pouvoir d'un certain nombre de carrières au long cours, et naturellement à partir des années 1950-60 de la famille de Raffarin, avec Jean Raffarin, puis Jean-Pierre Raffarin, à la direction de l'association centrale depuis un certain nombre d'années. Donc ce sont des ramifications qui sont à la fois économiques, sociales et politiques. C'est d'ailleurs plutôt moi sous cet angle-là que je l'avais vu jusqu'à votre invitation pour aujourd'hui, mais j'ai encore conscience qu'il faut beaucoup travailler ces aspects-là. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Alors, concernant votre conclusion, en fait, si vous aviez été parmi nous ce matin, vous auriez vu que c'était très précisément ce que nous attendions de vous, c'est-à-dire effectivement nous essayons de parler du travail sans forcément être dans cette réalité ou cet imaginaire, cette combinaison de réalité et d'imaginaire que constituerait la conscience ouvrière. Donc c'était tout à fait à dessein justement que nous voulions parler ainsi d'une forme de travail industriel en zone rurale en nous intéressant effectivement à ces beurriers de surgères. Alors, on va malheureusement avoir relativement peu de temps, mais avant quand même une interrogation par rapport à ce que vous avez montré. Vous m'avez interpellé un peu sur la question technique. J'ai été étonné de l'absence dans ce que vous avez présenté de la question de la centrifugation du lait. Parce que quelques mots sur cette question-là, qui est quand même effectivement centrale, sur la mise en place de cette beurrerie. Il faut comprendre que le beurre, en France, jusqu'à l'implantation de ces beurreries des Charentes, est du beurre salé, qui est fabriqué à partir d'un système de polyculture élevage, comme en Bretagne ou dans d'autres régions de l'ouest de la France. En fait, la crème est un résidu de la production agricole, je veux dire, collectée journellement par la fermière et transmise. Donc la fermière fait son beurre une fois, deux fois par semaine. Autrement dit, elle fait son beurre avec de la crème aigrie. La grande invention des Charentes, par imitation au Danemark, c'est justement de faire du beurre frais à partir de crème qui n'est pas aigrie, et ceci repose sur la centrifugeuse qui permet la séparation de la matière grasse très rapidement. Alors d'ailleurs, ça posera des problèmes pour l'implantation sur le marché parce qu'il y a un changement complet de normes du goût. Alors, je n'ai pas vu apparaître...
Non, parce que là, je n'ai pas eu le temps de parler d'abord de l'énorme travail réalisé à Surgères par Pierre Dornic, qui est le créateur, enfin, qui, on va dire... d'un point de vue scientifique, vraiment, du beurre local tel que vous le définissez, enfin, même si c'est antérieur à lui. Mais lui, venant, étant passé par Mamirol, ayant passé... il est breton d'origine, enfin, il a fait une sorte de tour de France, déjà, des laiteries quand il arrive dans la région, où il est nommé inspecteur des laiteries de l'Ouest. Là, pour le coup, il y a des livres, effectivement, techniques à éplucher. Il y a d'autres métiers, parce que Tout à l'heure, j'avais à table donc un monsieur dont le père a travaillé dans les installations. On a effectivement un certain nombre de techniciens qui viennent constamment dans la laiterie pour faire de la maintenance, parce que même déjà, ça commence avant la Première Guerre mondiale. Hein, ils sont déjà présents, on les voit déjà, parce qu'il n'y a personne de vraiment compétent pour, en cas de pépin, peut-être quelques réparations un petit peu courantes, changer des courroies. Ça, ils sont capables de le faire avec, autour des poulies. Mais dès que ça commence à être au-delà, il faut faire appel à des gens qui viennent de Nantes, qui viennent de Bordeaux, qui viennent parfois de Rennes, qui viennent de beaucoup plus loin, qui viennent donc de Poitiers. Il y a donc toute une industrie à côté, là pour le coup, de la machine-outil laitière qui se met en place, pour laquelle je dois avouer...
Ce que je voulais simplement dire... Pour conclure, ensuite.
Oui, oui. Et en particulier, ce qui se passe après à Surgères avec Dornic, c'est-à-dire il y a un laboratoire, il y a une école.
Par rapport à notre thématique ici autour de la mémoire, c'est qu'il y a un effet un petit peu paradoxal. C'est-à-dire que quand la laiterie est implantée, cette beurrerie est implantée dans cette région, c'est une industrie totalement révolutionnaire dans l'espace français. Oui. Bon. Alors qu'aujourd'hui, en fait, au contraire, on a une conservation de quelque chose qui apparaît traditionnel. Alors, y compris. Cette figure apparaît comme une espèce de beurre traditionnel, ce qui correspond effectivement à la réalité, c'est-à-dire que l'image que vous avez montrée dans les années 50, vous avez une grosse baratte, mais ça reste une baratte, oui. Alors que la majeure partie du beurre français, déjà à l'époque, est fabriquée au butyrateur, c'est-à-dire dans un dispositif de barattage en continu. Autrement dit, vous avez un effet, une espèce de renversement, si vous voulez, je dirais, une industrie absolument révolutionnaire constituée à la fin du 19e et jusqu'à la guerre de 14, avec une dimension importante aussi, qui est le fait qu'on met en place des wagons réfrigérés, le beurre est transporté par wagons réfrigérés à Paris, devient, la période récente, depuis les années 70-80, dans une image d'une mémorialisation sectorielle d'un produit traditionnel.
Le pire étant l'adoption d'un beurre salé, l'adjonction du sel. Parce que finalement, aujourd'hui, quand on voit des gens arriver à échirer, ça m'est arrivé, ils demandent le beurre salé. Alors là, vraiment, c'est vraiment une ignorance complète. Et pourtant, ils le font, effectivement, pour répondre à la clientèle. Ils n'ont pas osé le faire à la fleur du sel de l'île de Ré, mais ils devraient. Parce que c'est d'un point de vue marketing, on est donc purement dans la notion de marketing. Bon,
Merci. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions.
Oui, monsieur. Il y a des questions. Attendez, il faut que je vous passe le micro, monsieur. Enfin, en tout cas, faire une conférence sur le lait à l'espace Mendès France, c'est bien entendu tout à fait inévitable, vu ce concept de l'histoire. Hein. Merci beaucoup, monsieur. Et puis, vive le beurre breton, mais ça, c'est un aparté.
Oui, ça, c'était en vert, en plus. Oui, vous n'avez pas parlé de la pasteurisation qui est arrivée aussi un peu plus tard.
Ben, on voit les premiers essais de pasteurisation d'après ce que j'ai comme brochure. Mais moi, je suis beaucoup moins peut-être spécialiste que M. Vatin. Pour moi, j'ai des premiers essais qui datent pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, ils se lancent dans la pasteurisation avec de gros investissements à la fin des années 40. Donc, ce qui est très tôt quand même. Ils se posent beaucoup de questions parce qu'ils ont peur que ce beurre pasteurisé dénature le goût et que c'était... Bon, un petit peu l'originalité, parce que là, ce dont je n'ai pas parlé, mais on n'était pas forcément dans le sujet, c'est que comment le beurre aussi, en termes de goût, le beurre de notre région, a supplanté le beurre d'Isigny, le beurre du Bessin, qui est beaucoup plus jaune, qui est beaucoup plus riche en réalité. Il se trouve que le temps, même si le trajet était fait dans d'assez bonnes conditions grâce au wagon avec la double cloison avec le liège et tout, mis au point par Pierre Dornic à la fin tout début du XXe siècle, bizarrement, le beurre des Charentes se continuait de se faire pendant le trajet et au bout de 4-5 jours, il était meilleur, rendu donc... meilleur au goût des acheteuses des maisons bourgeoises aux Halles. Parce que c'était les consommateurs, il faut bien comprendre que ce n'étaient pas les gens des milieux sociaux favorisés qui les achetaient directement. C'était en fait leurs employés de maison, qui souvent étaient d'origine bretonne d'ailleurs, ou normande. Et ils ont dû passer comme cela, ils ont abandonné le beurre normand d'Isigny, enfin pas abandonné complètement, mais il y a eu une conversion qui s'est faite gustative. Et en revanche, le beurre normand... manifestement, au bout de quelques jours, devenait plus, peut-être plus sûr, plus aigre.
Oui. Alors, sur la pasteurisation, il faut distinguer deux choses. La pasteurisation du lait et celle de la crème. Hein. Donc la pasteurisation se développe à la même époque que la laiterie de surgère, mais il s'agit de la pasteurisation du lait de consommation. Oui. Et donc les usines de pasteurisation sont réparties donc, dans cette zone de collecte, disons à peu près 200 km de Paris. Là, le problème qui est posé, c'est qu'effectivement, le beurre, à l'époque, est un produit de fermentation. Et donc, la référence est effectivement le beurre breton qui est fait avec de la crème qui est déjà fermentée. Et la difficulté est d'introduire du beurre frais. Donc, ça reste une fermentation, mais une fermentation légère, d'où ce que vous avez évoqué. Et alors là, le passage à la pasteurisation, c'est le problème de la pasteurisation de la crème, ouais. Hein, qui est une autre question que celle de la pasteurisation du lait.
Et puis ensuite, il y avait un échange aussi avec les agriculteurs locaux. Il y avait des retours, les agriculteurs locaux, donc, puisqu'il y avait un retour du petit lait vers des porcheries, notamment.
Voilà, oui. Hein. Oui, la plupart des fermes chez nous ont des porcheries accolées. Hein, encore.
Oui, et ça ne marchait pas très bien. Donc, il y a une caséinerie qui est installée à Surgères, si mes souvenirs sont
bons. Voilà, alors la caséinerie, alors il faut savoir qu'Échiré a refusé de participer à la caséinerie de Surgères. Et elle a refusé également de participer à l'ULAC qui a été créé, et donc ce qu'on appelle le GLAC aujourd'hui. Donc, dans les années 1930, au moment de la grande dépression des prix et de la crise, Échiré avait les moyens d'être en dehors. Donc, parce qu'elle était déjà d'une qualité à part, enfin, d'une réputation à part. Mais là, pour le coup, ça, c'est vrai que je n'ai pas travaillé, pour le moment, en tout cas, sur ces aspects plus industriels que l'on trouve à Surgères, que l'on trouve ici avec Bonnilay, ou que l'on trouve à Chandonnier également avec... l'usine de l'ULDS, l'Union laitière des Deux-Sèvres, pour la caséinerie. Donc là, on a plus peut-être des vrais ouvriers, là, on est beaucoup plus loin.
On s'intéresse à tous les ouvriers, qu'ils soient vrais ou faux. Voilà. On ne cherche pas les vrais. Merci. Je sais pas, peut-être une dernière question, parce qu'ensuite, on va devoir Agnès Jean-Jean. Enfin, allez-y, puis ensuite.
Pardon, oui, c'est rapide. En plus, c'est pas vraiment une question, donc il n'y aura pas vraiment de réponse. Mais comme c'était après le repas et que les vins étaient bons, j'avais envie de m'amuser un peu. Donc, il y a une image qui m'a plu dans ce que vous avez présenté. Et je ne sais pas si c'est lié à l'inversion du travail dont a parlé M. Vatin, ou bien ce matin à la hiérarchie du travail intellectuel et manuel. Qui a été plus ou moins sous-entendu dans le discours sur les dockers, ou bien si c'est ce qui a été un des sujets de débat à midi, finalement le rapport dominant-dominé, mais je trouve assez amusant que pour parler des vaches et du lait qu'elles produisent, on nous présente un taureau magnifique.
Oui, parce que hier soir... Bon, je voulais montrer, non, parce que je voulais montrer. J'avais en photo plus le taureau, j'avais quelques vaches autour, mais c'était lui le travailleur, si vous voulez.
Si vous voulez bien une toute petite notation sur cette question du taureau, le lait aujourd'hui n'est plus simplement un produit qu'on valorise, mais ce qu'on appelle le herdbook, c'est-à-dire aujourd'hui un certain nombre d'éleveurs laitiers font aussi beaucoup d'argent sur l'héritage des bonnes laitières. Donc ce qu'il faut comprendre dans l'évocation du taureau, c'est qu'il transmettait moins sa masculinité que ses gènes et était lui-même descendant d'un certain nombre. Voilà. Donc la question de la race parthenésienne est relativement
importante. On ne cherche pas à se défendre, c'est pas la peine, c'est sans espoir.
Non, mais pour signaler que la question génétique, qui était à cette époque tout à fait sous-entendue, est devenue aujourd'hui l'occasion d'un vrai business qui surpasse le business laitier lui-même.
Oui.
Oui, moi, c'était une petite question sur l'intérêt que les gens, donc les ouvriers ou les gens qui travaillent donc, dans la beurrerie, portent ou ne portent pas au fait qu'on aille recueillir ou les interroger sur leur travail, cette question de et je me dis, mais quand même, enfin, tout le monde n'y est pas recruté dans les familles paysannes alentour. On y arrive peut-être pas n'importe comment. C'est pas n'importe qui dans la famille qui se retrouve à travailler là.
Oui, non, vous avez raison. Il y a des générations. Oui. Il y a des familles qui sont plus. C'est peut-être moins vrai aujourd'hui. Mais vous avez raison. Il y a une sorte de spécialité familiale parce que souvent, on a plusieurs générations qui travaillent à la laiterie. Il y a une forme de cooptation. Mais comme on retrouve quand même, on retrouve des noms, les mêmes noms de propres sur 100 ans, c'est pas grand. Ça ne fait que quelques générations quand même. Et on est dans des milieux où on n'a pas tant que ça eu de brassage. Et on retrouve les mêmes noms aujourd'hui, à l'exception du fondateur de la famille Sago, enfin Delphin Sago, qui a créé la laiterie coopérative, parce que la première beurrerie à Échiré a été créée par la marquise du Dresnay, et la famille du Dresnay est toujours présente. Et étant donné que ça ne marchait pas très bien, au bout de 2 ans, donc elle a accepté de louer les locaux de sa beurrerie pour en faire une coopérative. Et là, on voit bien qu'il y a un relais politique, parce qu'eux étaient légitimistes, et Delphin Sago, qui reprend, lui, est républicain. Il va même très rapidement être vice-président du Conseil général des Deux-Sèvres. Ça, c'est un républicain de droite, hein, parce qu'il y a aussi cette notion, après, mais on est sur un autre terrain, parce qu'on a des coopératives dans la région qui sont plutôt marquées, on va dire, centre-gauche, radicales, mais radicales plutôt à gauche, et d'autres plutôt à droite. On le sait, enfin, on se connaît. On sait très bien que dans le Mélois, c'est plutôt à gauche. Enfin, il y a des zones comme cela qui... Aujourd'hui, d'ailleurs, Échiré est au sein de la coopérative laitière de la Sèvre avec celle sur Belle, qui n'a pas le même passé, sur lequel je n'ai pas encore travaillé, mais qui était plus marquée à gauche. Puis qui travaille le lait de chèvre aussi, ce qui est encore un tout autre domaine.
Je peux donner simplement sur cette question-là un petit élément de réponse sur une autre zone, mais qui, je pense, pas sans importance par rapport au débat qu'on a ici depuis ce matin, sur l'Ille-et-Vilaine, où nous avons pu étudier de façon assez systématique le salariat laitier à partir des fiches de recensement depuis la fin du XIXe siècle. Et on voit une rupture avec la Seconde Guerre mondiale. Jusque-là, les salariés laitiers, ce sont des paysans sans terre. Et après la Seconde Guerre mondiale, ça devient des producteurs et des fils de producteurs dans le cadre du modèle qui devait préexister effectivement en Charente, c'est-à-dire la liaison intime entre les fournisseurs et les salariés de la laiterie. Ce sont les mêmes, notamment effectivement les chauffeurs laitiers, ce sont souvent eux-mêmes des producteurs laitiers. Mais ça, c'est un modèle qui se met en place après la Seconde Guerre mondiale et qui correspond à un changement complet du statut du salariat. C'est-à-dire qu'on voit bien une première période où le salariat est une situation, je dirais, quand on n'a pas de terre, hein, donc on est dans ce modèle de Marx que j'évoquais tout à l'heure, hein, on n'a rien d'autre à vendre que sa force de travail, alors qu'après la Seconde Guerre mondiale, ça devient une situation valorisée qui amène un revenu stabilisé et qui n'empêche pas éventuellement de continuer à avoir une exploitation agricole. Donc là, on voit véritablement une rupture sur le statut du salariat laitier. Mais je pense que de ce point de vue-là, ici, on était, avant même la Seconde Guerre mondiale, dans un modèle plus proche de ce que nous avons pu observer en Bretagne orientale après la Seconde Guerre mondiale. On va devoir malheureusement passer à des vrais ouvriers, hein, puisqu'on a eu des faux, avec donc Renaud Billancourt, là, vraiment, on est au cœur du monde.
Je vous ai préparé une carte.
Oui, je l'ai prise.
Si vous m'invitez, bien arrivant. Il n'y a pas de taureau. Les vaches et les taureaux.
Bon, donc nous poursuivons aujourd'hui, maintenant donc avec ce qui était prévu ce matin, hein, sur les usines Renault-Billancourt, avec donc Emmanuel Dupuis et Patrick Schweitzer, qui sont donc les fondateurs, animateurs, je ne sais pas comment il faut appeler ça, de l'association ATRIS, association des anciens travailleurs de Renault-Billancourt, Ile-Seguin, qui vont nous parler de leur expérience d'un travail de conservation de cette mémoire ouvrière de Billancourt et qui vont donc être présentés par Gwenaëlle Roux, qui est ma collègue à Nanterre, elle-même spécialiste de l'histoire et de la sociologie de l'industrie automobile, et notamment des usines Renault. Voilà.
Donc merci François, merci Anne pour cette invitation. Donc en fait, on va fonctionner sous la forme d'un trio. J'amorce et puis je passe tout de suite le relais et j'organise les images derrière. Donc le choix des images ayant été, on pourra en parler parce que c'est aussi un enjeu de mémoire et d'histoire. Une partie ont été faites par moi, donc les premières, et les suivantes m'ont été livrées sans que je connaisse toutes les sources par mes amis d'actrices. Ça pourra faire l'objet éventuellement de discussions. Alors, donc le retour en fait, c'est un retour sur Billancourt, sur Renaud. Billancourt, Renaud, qui est souvent ramené à l'espace circonscrit de l'île Seguin, mais il importe de souligner que on peut pas, que l'espace en question est beaucoup plus large et que le territoire et la délimitation du territoire est aussi un enjeu de débat et de discussion dès lors que on s'intéresse à la mémoire du travail. Aujourd'hui, Billancourt a été quelque peu travaillé physiquement. Là, ce que je vous présente, c'est des images prises en 2007 et on peut dire qu'il y a eu encore un peu de nettoyage fait là-dessus. Donc des images de l'île Seguin vont vous donner une petite idée de ce qui a été, je dirais, effacé et conservé. Alors il y a eu plus de choses effacées que de choses conservées, ce qui est un véritable problème et une véritable difficulté aujourd'hui lorsque justement on recherche aussi des traces pour réactiver la mémoire, et ces traces ont besoin aussi d'avoir une matérialité, enfin il y a besoin d'avoir des prises, et ces prises sont éminemment problématiques pour ce qui est de Renaud. Et parmi les traces qui restent quelque peu, il y a le fameux pont Dédé sur lequel arrivaient les ouvriers pour aller travailler sur l'île. J'ai pris des tuyaux parce que je m'intéressais à l'époque aussi à la chimie, donc je trouvais que ça faisait quelques évocations. Il faut bien passer par quelque chose, faut avoir aussi des prises dans les choix des photographies. Et on a ce mur d'entrée qui est protégé par un filet et qui derrière débouche sur pas grand chose, à vrai dire. Le pas grand chose, c'est ce chantier. Alors, on parlait de chantier tout à l'heure avec Agnès Jean-Jean, des travaux publics. L'image à droite, c'est une trace d'un bout de chaîne, finalement. Il y a quelques traces comme ça qui laissent suggérer qu'avant, il y avait une activité industrielle. Et en arrière-fond, c'est l'autre pont qui joint l'autre rive de la Seine. C'est le pont Sébert. Voilà. Alors, ça, je ne sais pas si ça reste encore, mais il y a eu quelques bâtiments qui ont été gardés au bout de l'île. On ne sait pas forcément très précisément ce qui va être gardé en définitive, mais à part ce morceau d'usine, on n'a plus grand chose. Alors, Billancourt, ce n'est pas réductible à l'île Seguin, et parmi les traces qui restent encore et qui sont menacées, pour l'instant, la décision a été faite d'être conservée. C'est le mur de l'artillerie à Billancourt. Et il est probable que ce mur soit déplacé dans le cadre d'aménagement urbain, ce qui pose aussi la question de l'identité de ces bâtiments et de ce qu'on va en faire dans le cadre d'un espace, on va dire, culturel. Donc, passage de l'industrie à la culture, quels sont les enjeux liés à cette transition. Donc, vous voyez ce mur qui ne tient que par quelques échafaudages. Quand on passe devant, c'est très impressionnant, l'impression qu'il suffit d'un coup de vent pour qu'il soit balayé. Autre espace, là, on se rapproche, parce qu'on parle des mémoires, mais il y a aussi les mémoires qui ne sont pas que ouvrières. Là, on se rapproche de la zone patronale, du côté de ce qu'on appelle le bâtiment X, avec un symbole de Renaud, cette cabane, alors, qui a d'ailleurs été reconstruite. Donc, en fait, ce n'est pas la vraie, si j'ai bien compris, mais on peut croire que c'est la vraie. Donc, en tout cas, il y a un vestige de quelque chose qui rappelle le mythe du fondateur qui, dans sa petite cabane, a inventé des une mécanique compliquée, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de prise directe, voilà. Prise directe, merci. Et à côté, bah, d'autres bâtiments qui sont assez, assez impressionnants aussi, qui est l'ancien bâtiment de la direction. Hein. Donc, je parle tout sous contrôle, hein, mes collègues. Le fameux bâtiment X, dont on se pose pas mal de questions sur les réutilisations. Est-ce que ça servira de musée notamment automobile, où seront présentés un certain nombre de véhicules? Qu'est-ce qu'on va en faire? En tout cas, ça reste là le territoire de la direction, même s'il y a des discussions quant à l'usage que pour en faire la ville. Hein. En tout cas, il y a encore des interrogations sur le sort définitif de ce bâtiment dans le cadre d'échanges avec la municipalité, puisque derrière ces enjeux, que va-t-on faire de ce territoire et de ces traces? Il y a de nombreux acteurs, les associations, donc Atris, mais il y a aussi Amétis, qui est l'association des anciens cadres de Renault-Billancourt, mais il y a aussi la municipalité qui change. Hein. Il y a un changement, même si on reste, c'est une municipalité de droite, il y a des changements de maire, ce qui n'est pas sans incidence. Il y a eu lieu de nombreux débats politiques. Et quatrième acteur, il y a aussi l'entreprise elle-même, Renault, hein, distincte des associations, qui a de l'argent, qui a un enjeu important en termes de communication institutionnelle, enjeu en termes de savoir qu'est-ce qu'on va mettre dans un lieu de mémoire si on en fait quelque chose, et en quoi ce lieu va donner une image ou des images de l'entreprise, pertinente ou pas, à ses yeux. Et il y a un autre acteur un peu électron libre dont je suis un tout petit peu la représentante, qui est l'acteur universitaire que l'on va solliciter un peu pour avis ou pour contrepoids, avec un rôle qui n'est pas forcément évident à décoder. Et tout ça, eh bien, c'est un mélange bizarre d'intervenants qui sont tous intéressés d'une manière ou d'une autre pour qu'il se passe quelque chose sur ce site, mais avec beaucoup d'incertitudes. Alors les enjeux, effectivement, c'est qu'est-ce qui va être dit sur ce passé, comment ce passé, vers quoi va-t-il déboucher, et comment on ramasse une histoire extrêmement complexe. Donc là, ce sont des panneaux qui ont été mis par la SAEM avec la collaboration différents acteurs devant, je dirais, un chantier pour montrer qu'il va se passer quelque chose. Et alors c'est une photo que j'avais prise un peu rapidement, et j'étais restée un peu sur le lieu, et d'anciens, alors soit des gens de la ville, soit d'anciens ouvriers de Billancourt, s'arrêtaient et regardaient très très attentivement ces panneaux qui évoquaient sans doute certaines années passées à l'usine. Et en jeu, là, c'est bon, là aussi, j'avais assisté à des réunions. Que va-t-on faire? Comment va-t-on réaménager? Donc là, les choses sont aussi saisies par un autre acteur que je n'ai pas évoqué, les agences d'urbanisme, cabinets de muséographie, architectes. Donc, vous voyez que ce territoire est travaillé. J'avais voulu terminer mes deux minutes, hein, j'espère que je n'ai pas trop dépassé, sur une citation de Jean-Paul Gou, qui a fait un remarquable ouvrage sur les mémoires de l'enclave. Il ne s'agit pas de Renault, mais de Peugeot, où justement il s'interroge sur ce que l'on peut faire de ces traces. Et j'avais trouvé cette petite citation que j'avais intéressante, et histoire de passer ensuite le relais sur l'action, je dirais, l'expérience d'Atris, dont Patrick et Emmanuel ou Patrick vont nous dire un certain nombre de choses. Voilà.
Bien. À part ça, merci pour l'accueil, et entre autres maintenant pour le repas de midi, qui était excellent et fameux. Donc on va le jouer à deux voix, hein, avec Emmanuel. Je propose, on va essayer de rester dans le temps, mais tu nous fais... Hein, voilà. Autant que je peux. Donc je vais faire une petite présentation d'Atris, sa genèse, comment ça, on en est arrivé là, sur le recueil, de la mémoire. Emmanuel fera une présentation d'exemples concrets sur lesquels on est, et je reprendrai sur un peu les problèmes que ça nous pose, des problèmes qui intéressent tout le monde quand il s'agit de recueil de la mémoire. Donc on y va. Donc je me présente, Patrick Choiseur. Moi, je viens de quitter l'entreprise depuis 3-4 mois, après 40 ans à Renault, dont 27 à Billancourt, dans l'île Seguin, comme mécanicien d'entretien. Voilà, donc je faisais la maintenance sur les chaînes de production. Voilà. Donc, comment on en est arrivé là? Je vais essayer d'être assez court, parce que ce n'est pas le plus important, mais quand même, il faut le comprendre. En gros, 92, c'est la fermeture, enfin, l'arrêt de la production, fermeture de l'île Seguin, pas de Billancourt, hein, de l'île Seguin, l'arrêt de la production. On se retrouve tous dehors. Pour ceux qui restent, on doit rester dans les pas nombreux, 3-4 000, quelque chose comme ça. Donc, une grande partie qui seront exclus de l'entreprise avec des primes de reclassement, enfin, toute une série de statuts dans lesquels je ne rentrerai pas, une partie de salariés qui sont reclassés, et puis d'autres qui vont se retrouver au chômage, licenciés. Et tout. Les mois passent et très vite, on se retrouve place nationale dans le quartier pour ceux qui y vivent. Ça devient une douleur, une vraie douleur quand on se croise, qu'on se retrouve, parce qu'il y en a qui ont perdu leur boulot, qui se lèvent même plus le matin pour aller chercher du boulot, ils y croient plus, puis les autres qui sont reclassés, enfin, une ambiance très mauvaise. Très mauvaise, mais en même temps, on se tombe dans les bras, évidemment, à chaque fois qu'on se retrouve. Donc trois ans, il nous faut pour réaliser qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Et on se fait une bouffe, on se fait un repas au restaurant pour se retrouver, on est 50. Et à 50, eh ben, il ne se passe pas grand-chose, mais on a envie de recommencer. Et l'année suivante, on va recommencer, ça c'est en 94-95. Et très vite, mais c'est très empirique, il faut qu'on fasse une chose, il faut qu'on monte une association. Et puis c'est quoi les objectifs? Se retrouver, un, l'aide sociale à ceux qui sont dans la panade, deux, puis la mémoire, trois. Puis très vite, en fait, en constituant l'association qui déposera ses statuts en 98, création d'Atrice officielle, à coup de réunions dans des salles, dans les troquets, enfin, on n'a rien évidemment, on finit par comprendre qu'il n'y aura pas trois objectifs. Se retrouver, on le fait tout seul. L'aide sociale, mais il y a des instances, il y a des structures. Pour un grand nombre issus du mouvement syndical, on sait à qui renvoyer. Donc, qu'est-ce qui nous reste? La mémoire. Il nous reste quoi? Qu'ils ont rasé l'usine dans laquelle nous avons travaillé, pour certains, parents, générations, enfin, la classe ouvrière, une partie. Et pour des intérêts économiques, ils ont fermé l'entreprise. Et ils veulent, en plus d'avoir rayé de la carte d'un point de vue économique, ils voudraient raser la mémoire ouvrière. Ils voudraient raser aussi notre mémoire. C'est un peu ce qui nous pousse à dire, ben maintenant, c'est cette association, il faut qu'on travaille sur la mémoire. Et très vite, donc, très vite, très empiriquement. En fait, je crois qu'on a appris en avançant, on a appris à marcher sur deux pieds. En fait, une des batailles centrales qu'on comprend, c'est que la seule manière, c'est d'un, on ne va pas demander à ce qu'ils reconstruisent une usine de voitures, ça va. Il faut un lieu de mémoire. Il n'est pas possible que sur Billancourt, dans l'île Seguin, mais ailleurs on s'en foutait un peu, il faut qu'il y ait un lieu de mémoire dans lequel on puisse se retrouver, travailler sur notre mémoire, retrouver les anciens, transmettre. Toutes ces idées-là tournent. Et puis deuxième chose, on va se mettre à recueillir la mémoire. Nous sommes un certain nombre, quelques dizaines. Donc on doit se mettre à la tâche de recueillir la mémoire. On n'est pas des pros, hein. La majorité d'entre nous sont OS sur chaîne ou professionnels. Et au début, il y a y compris peu de collègues des bureaux salariés, pas de femmes. Et l'évolution de l'association va être complètement empirique. Et on va se développer. D'une part, on va changer de nom, parce qu'on s'appelait à l'origine, c'est toujours Atrice, mais qui s'appelait Association des anciens travailleurs Renault Île Seguin. On va rajouter évidemment Billancourt. La mémoire ouvrière de Billancourt, ça ne peut pas être restreint à l'île Seguin, même si l'île Seguin en est un élément important. Donc c'est Billancourt. Et puis d'année en année, cette association vit, se développe, regagne d'autres collègues, d'autres amis, d'autres courants de pensée, des gens qui étaient organisés dans les syndicats, qui ne l'étaient pas, qui avaient dit... C'est regrouper tout ça pour travailler. Et entre autres, dès que se met en place, dans le cas de la SAEM, parce qu'on fait... On fait pression, on fait des courriers, des machins. D'abord, on veut un local, on veut des moyens. On n'a rien. La presse, quand ils veulent nous voir, on va au troquet. Ce qu'on met en place, c'est... on participe à toutes les réunions que la SAEM va diligenter sur le recueil de la mémoire. On ne va pas aller à toutes les réunions, on va recueil de la mémoire. Et depuis, on y est assidu et on y est en force de proposition. Et nous, ça nous oblige à réfléchir qu'est-ce que serait un lieu de mémoire. Et on va écrire. Bon, ça se trouve par le net pour ceux qui sont intéressés. On va écrire pour mettre devant les institutions, voilà ce que pour nous, on ne pense pas que c'est l'idéal, mais notre état de réflexion, ce que doit être un lieu de mémoire ou pas être. Et maintenant, on en est là. Or, maintenant, j'arrête là parce qu'il y a plein, c'est en pleine situation, évolution politique, comme le disait Gwenaël, et on ne lâche pas le morceau. Quoi. Maintenant, on a un local, les choses ont avancé, c'est une association qui est reconnue, évidemment. Quand les journalistes universitaires cherchent à avoir des témoignages d'anciens Renault, ben, quelque part, ils passent par nous. S'ils veulent avoir la voix de son maître, ils passent plutôt par l'association des anciens cadres. Bon, voilà, c'est bien. Cette mémoire sera plurielle et elle est de différents aspects. J'arrête là pour l'association. Donc, dans le cadre du travail de recueil de la mémoire, on va travailler avec un certain nombre d'expériences. Et je laisse la parole à Emmanuel pour se présenter puis expliquer.
Alors, c'est pour donner la dimension, justement, de cette entreprise. Je représente un secteur qui est sur le trapèze, cette grande partie dont parlait tout à l'heure Gwenaël. J'ai travaillé dans les secteurs de bureaux, secteur tertiaire. J'ai adhéré, non pas, je ne suis pas fondatrice, comme l'a dit François, de l'association, mais j'ai rencontré l'association en 2004. Vous voyez, elle avait déjà une existence, lors d'un colloque organisé à Boulogne-Billancourt, en lien avec la BDIC, donc la bibliothèque de Nanterre, avec un certain nombre d'historiens, la ville de Boulogne et un certain nombre de structures. Et Atrice était présent. Et c'est là où je les ai rencontrés et où j'ai demandé à adhérer. Et je dirais que ça a coïncidé justement avec l'ouverture. C'est-à-dire que ce groupe qui était composé principalement d'anciens de l'île Seguin commence à s'élargir à partir de cette période où des gens comme moi, des bureaux, viennent dans l'association. Alors je voudrais dire sur le comment, avant de donner deux expériences, c'est que tout le travail qui a été fait, ça a été un travail de lien. On a fait des expositions dans un certain nombre de communes pour montrer des photos. Et ce n'était pas pour montrer des photos au niveau du passé, c'était simplement parce que c'était une occasion de rencontrer des anciens de Renault ou de leur famille ou des personnes qui étaient intéressées par ce qu'était cette entreprise. Et donc ça a été des occasions de créer des contacts. Et on s'est aperçu au moment où les gens venaient et regardaient des images des anciens ateliers, que là la parole elle naissait, que commençait à raconter, ben moi j'ai travaillé, ou mon père, ou ma femme, et là ça y est, on commençait à raconter toute cette histoire qui nous intéressait. Donc ces initiatives qu'on a prises d'exposition et avec en plus un film dont on n'a pas parlé mais qui a été réalisé juste avant la destruction de l'île Seguin, un film a été tourné dans l'île où il y a un bon nombre, je crois une quarantaine de personnes qui ont été interviewées. Dans le film, il y a 10 personnes qui parlent. On l'a mis sur la table qui est là-bas si vous voulez le voir. Et des gens racontent ce qu'ils faisaient, quel était leur travail en rentrant dans une usine qui est complètement vidée puisque c'est dans le début des années 2000 que le film est tourné. L'usine est fermée depuis 92, mais ils rentrent dans un endroit désert où la végétation commence à envahir les lieux et où ils racontent leur histoire. Donc c'est tout ça qui a fait que, avant que disparaissent, parce que vous avez vu les petits bouts de mur qu'a montré Gwenaël, c'est des petits morceaux qui restent, mais avant cette grande entreprise où il y avait des milliers de personnes qui travaillaient, on s'est dit, c'est pas possible, il faut qu'il reste des traces. Donc, on a fait ces initiatives, on est allé dans les écoles, et ça c'est l'aspect transmission, on est allé rencontrer des jeunes, sollicités par des professeurs d'histoire, par des profs de français qui nous connaissaient, et on est allé raconter comment était la vie dans une entreprise, parce que c'était la démonstration de comment un siècle d'histoire d'une usine automobile, qui avait, alors on a parlé tout à l'heure de la petite cabane de Louis Renault, vous pouvez imaginer, et après c'est devenu une entreprise qui est sur des hectares, avec une production en millions de voitures, donc d'expliquer toutes ces transformations au fil du temps, parce que c'est plus d'un siècle de la vie, du développement d'industrie automobile, et on se dit, ça fait partie de notre histoire et du patrimoine commun de tout le monde. Et il faut donc transmettre. Et donc ça, c'est un aspect, donc l'aspect développement, mais aussi l'aspect de tous ces gens qui ont travaillé, ces hommes et ces femmes, des différents métiers, dont certains ont disparu et tout. Donc là, je prends deux exemples, comment on a essayé de s'y prendre par rapport à cette collecte de la mémoire. Souvent, ça passe par le biais d'anciens qui connaissent et tout. Et là, on a appris par un ancien de Renault, avec qui était adhérent de l'association, il a dit, moi je vais chaque semaine dans une maison de retraite à Boulogne-Billancourt, pour faire de la musique. Et il rencontrait des anciens. Et il nous dit, là, il y a plusieurs hommes et femmes qui sont là et qui sont des anciens de Renault-Billancourt. Donc on est allé rencontré, une première rencontre. Puis on s'est dit, mais c'est fantastique, ça, il faut avant que... Parce qu'on a bien vu qu'il vieillissait, qu'il faut que très vite, aller collecter cette mémoire. Donc on a pris l'initiative, un goûter qu'on a organisé en lien avec la maison de retraite où on a rencontré des anciens. Anciens et anciennes. Et par contre, alors là, je dois le dire, on a eu une rencontre fantastique d'une ancienne ouvrière qui a raconté sa vie, qui s'appelle toujours Odette d'ailleurs, Odette, et qui a raconté, et quand on a commencé à parler, qui a raconté sa vie, ses collègues et tout, et qui à un moment, dans la discussion, et ça on vous montrera des photos tout à l'heure, ça a levé le poing, puis elle s'est mise à chanter l'International. Et nous, on a eu un moment d'émotion absolument fantastique parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Et vraiment, elle racontait donc ses collègues, la vie de boulot et puis comment il y avait toute cette vie. Voilà. Donc ça, c'est un aspect. Par contre, et ça, je le dis en même temps, la limite, c'est qu'il y avait d'autres personnes avec elle et qu'on a voulu les filmer. On avait loué une caméra. On avait embauché une personne et un assistant pour faire les interviews. Et on s'aperçut en fait qu'à part le témoignage d'Odette, tous les autres étaient pratiquement inaudibles et incapables de retranscrire parce que le temps avait fait ses ravages. Et nous, on ne les connaissait pas. On avait rencontré juste Odette. On espérait que tous les autres étaient comme elle. Mais manque de chance, les années avaient fait leurs dégâts. Et on s'est aperçu qu'en fait, on était venus beaucoup trop tard. Mais ça a été une expérience à la maison de retraite des Abondances. Et on s'est dit, il faudra qu'on fasse attention dans notre sélection. Bon, attention au temps, le temps passe. Mais donc priorisons ceux qui sont les plus menacés peut-être, mais en même temps ceux qui ont encore la capacité de transmettre ce qu'ils ont vécu. Et donc on a essayé de repérer dans certains secteurs et on verra tout à l'heure les objectifs qu'on se fixe par rapport à ça. Donc une expérience très... au niveau émotionnel très importante, très intéressante, mais on s'est aperçu très limité au niveau de la collecte de la mémoire et qui nous avait, je le dis au niveau financier, qui avait quand même coûté relativement cher puisque la location d'une caméra plus de quelqu'un qui sait s'en servir, c'est pas gratuit. Donc voilà, on ne peut pas se permettre de faire ça tous les matins. Deuxième expérience sur laquelle, alors là, qui est complètement différente et qui a une autre histoire, c'est une expérience où on est allé retrouver les anciens travailleurs marocains qui sont venus travailler en France, soit chez Renault ou dans les entreprises Chausson ou autres entreprises de la région parisienne principalement, et qui venaient donc d'une région du sud marocain, de la région du Sousse, du côté de Tiznit, en dessous d'Agadir. Et donc là, l'idée est venue. Et alors, elle est venue par des liens. Là, c'est pareil. C'est un peu un moment, il y a une rencontre qui se fait. Le président de l'association, l'ancien président, puisque ça a changé maintenant, Mohamed Amri, qui était donc président de l'association, habite à Saint-Denis. La ville de Saint-Denis est jumelée avec la ville de Tiznit au Maroc. Et en 2004, lors d'une visite d'un responsable de Tiznit venant rendre visite dans le cadre du jumelage à la ville de Saint-Denis, il y a eu une rencontre et ça a été évoqué comme une possibilité en disant « Mais chez nous, dans la commune, il y a plein d'anciens qui ont travaillé chez Renault, qui sont rentrés, tout ça. » L'idée est venue en se disant « Mais ce serait intéressant d'aller les rencontrer et d'aller recueillir leurs témoignages. » Donc ça, c'était en 2004. Et alors, la réalisation de la caravane s'est faite cette année, donc en avril 2009. Donc vous voyez, il a fallu du temps, le temps de construire des liens, parce que l'idée c'est bien, mais après, comment organiser ça? Et donc là, je vois qu'il y a une photo, là, donc c'est Mohamed Amri qui a conduit au départ la caravane. Donc l'idée vient qu'on aille sur place, mais comment? Et ce qui nous a favorisé cette possibilité, c'est qu'il y a eu la rencontre là aussi par des liens de camaraderie ou de militantisme en commun, d'anciens militants qui étaient en France et qui sont rentrés au pays et qui sont dans une structure qui s'appelle le Conseil, le CCEM, Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Et constitué en 2007. Et c'est vrai que là, il y a eu la rencontre à un moment entre cette structure qui était préoccupée de justement faire le lien et de valoriser la vie des travailleurs marocains qui étaient allés dans les entreprises donc en France ou dans d'autres pays d'ailleurs, mais là en l'occurrence c'était la France et Renaud Billancourt, donc il y a eu l'idée de dire on pourrait faire quelque chose ensemble. Donc il y a eu tout un travail de préparation, d'un partenariat qui s'est mis en place, et au mois de novembre 2008, il y a une petite équipe de membres d'Atrice qui sont allés sur place, rencontrer des villes donc du sud marocain, et c'est là où s'est constitué et commencé à se mettre le projet en place. Donc il y a eu le choix de plusieurs villes, donc Tiznit, Ait Melloul, on avait prévu Taroudant, puis ça a été une autre ville après, et Agadir. Et donc, un circuit qui était prévu sur un mois, avec une semaine à un endroit, dans chaque ville une semaine, avec comme objectif exposition de photos pour attirer les gens et pour montrer aux familles des anciens ce qu'était la réalité, puisqu'on montrait les photos de l'usine Renault en activité avant sa démolition et autres. Donc montrer aux écoles aussi, puisque là vous avez des jeunes scolaires qui viennent visiter et à qui on a expliqué comment ça fonctionnait. Donc il y avait cette partie là mais l'objectif c'était surtout de rencontrer les anciens pour leur faire raconter, alors voilà, donc des anciens qui regardent les photos, et parmi eux, là, c'est des anciens de Renault, qui ont travaillé, et qui sont rentrés au pays, au Maroc, et notre objectif était de les interviewer, et de récupérer, de collecter leur mémoire, de façon à pouvoir la retransmettre. Donc, ça a duré pendant un mois, avec des aspects, là c'est encore un ancien qui a sa carte de Renault sur lui, un autre qui montre également sa carte, voilà. Donc, et ça a été des moments très émouvants de rencontre au niveau des anciens. Et donc à la fois pour qu'il y avait cette joie de se retrouver, de s'embrasser, de raconter la vie, ce qu'on est devenu, les enfants et tout, mais surtout... En même temps, il y a eu tout un temps où on avait mandaté une personne, Laurence, qui nous a accompagnés pendant une partie du voyage, pour rencontrer les anciens et assis devant une table chez eux ou à l'extérieur, faire raconter ce qu'avait été leur vie. Alors, dans différents aspects, leur vie en tant qu'anciens travailleurs, donc ce qu'ils avaient fait, mais aussi on voulait sentir un peu comment les familles. Et on a eu quelques contacts avec les femmes ou les enfants de ceux qui étaient venus travailler en France pour essayer de voir comment eux avaient vécu l'exil du père, enfin qui partait travailler en France, et donc comment eux avaient vécu cette période. Alors ça, c'était dans les objectifs qu'on avait. Ça a été réussi partiellement, parce qu'il faut toujours montrer dans les expériences que l'on fait, il y a des aspects extrêmement positifs, et je pourrais en souligner encore d'autres, c'est l'accueil qu'on a reçu. On a reçu un accueil formidable au niveau des villes qui étaient vraiment, ça a été très, très chaleureux. En fait, on a voulu nous montrer combien on estimait et on appréciait notre présence sur place. Donc ça, c'était très, très positif. Le fait des rencontres tout à l'heure dont j'ai parlé, l'enthousiasme des jeunes qui visitaient. Mais on s'est aperçu quand même qu'il y avait une limite, c'est que quand on rencontrait les gens, ils étaient prêts. Bon, il y avait plusieurs limites. Ils étaient très heureux de nous retrouver, mais pour raconter, c'était déjà bien loin. C'est-à-dire que même si ils pouvaient parler des anciens collègues qu'ils avaient connus, un peu de leur boulot, de leur faire raconter leur histoire, comment ils avaient vécu cette vie au travail, c'était déjà un peu plus compliqué. Et que au niveau de la quantité de témoignages, on en avait prévu, on espérait en pouvoir en collecter une trentaine. En fait, on en a collecté, disons, de manière satisfaisante, une quinzaine, donc la moitié, et un ou deux où on a pu avoir des contacts, mais très courts. Et surtout, c'est qu'on avait demandé à des anciens qui sont toujours en France, eux, mais qui rentrent au Maroc régulièrement, on leur avait demandé de nous mettre en lien avec les anciens et de préparer à l'avance. Et là, on avoue que ça n'avait pas été très bien préparé, ce qui fait que les contacts, on était obligé de les créer sur place en arrivant. Et que là, c'était beaucoup plus difficile parce qu'il fallait soit les opportunités de les rencontrer, soit aller chez eux, mais on débarquait un peu comme ça. Ça n'avait été pas suffisamment préparé. Et donc ça, c'est une des limites par rapport à ce travail de collecte de la mémoire. Donc là, on continue. Alors là, c'est les jeunes scolaires qui viennent voir. Et ça a été par contre passionnant puisque on a eu des classes de jeunes d'âges différents, hein, mais et garçons et filles, hein, d'ailleurs, là, c'est surtout une classe de garçons, mais il y a eu les deux, et qui étaient tous très intéressés. Par contre, on s'est relayé avec les amis, là, c'est Mohamed qui est en train d'expliquer, pour faire le commentaire, parce qu'il y en avait qui parlaient pas très bien le français, finalement. Et moi, qui étais sur place à certains moments, ben, j'étais obligée de passer le relais pour expliquer un certain nombre de choses à des amis marocains qui, eux, étaient plus en capacité de présenter. Donc ça, c'est les jeunes scolaires. Je ne sais plus... attendez, je suis en train de... Pendant l'expérience, oui, donc... Quelques limites aussi, c'est qu'on avait prévu de faire des projections du film dont je vous ai parlé tout à l'heure, La Retour sur l'île Seguin. Et là, par contre, on s'est aperçu que ça avait beaucoup moins de succès. On a organisé, bon, peut-être parce que c'était en soirée, que les gens venaient moins facilement, mais il n'y a pas eu une grande participation. Et on s'est rendu compte que les moments privilégiés pour retrouver les gens, c'était au moment de l'exposition, en s'asseyant dans l'entrée, avec autour d'un jus de fruits, d'une tasse, d'un verre d'eau. Et on s'était dit, ben, ce serait bien d'avoir du thé pour boire ensemble et s'asseoir et discuter tranquillement. Et que c'était plutôt sous cette façon-là qu'il fallait favoriser les temps de rencontre et de contact, plutôt que s'imaginer que dans une projection et dans une salle de cinéma, ils allaient oser prendre la parole pour témoigner. Et ça, bon, ils ne sont pas venus très nombreux, puis c'est que ceux qui sont venus, finalement, ils ne se sentaient pas très à l'aise pour parler dans ce contexte-là. Donc ça fait partie des limites. Dans les limites aussi, c'est que finalement, on avait voulu favoriser la participation d'anciens travailleurs qui vivent en France, marocains principalement, en se disant ça favorisera les contacts. Sauf que sur place, il y en a certains d'entre eux qui ont pris le temps d'aller visiter la famille et tout ça, et qui ne sont pas beaucoup préoccupés. Bon, ça, bon, il faut l'imaginer, ils étaient heureux de retrouver leurs copains, la famille et tout ça. Et donc, c'est une équipe de trois en général, on était en général 5-6, mais il n'y en avait toujours que la moitié qui était présent pour faire visiter, pour être... les autres avaient toujours des occupations à l'extérieur, et ça, on s'est aperçu que ce n'était pas forcément la meilleure chose, finalement, pour avoir des liens sur place. Alors maintenant, bon, donc ça s'est bien déroulé, ça a été par plein de côtés satisfaisant, mais maintenant, je dirais c'est la suite, c'est qu'au retour, on avait pris des engagements de valoriser à la fois l'expérience de la caravane, donc raconter, faire partager avec les adhérents, avec aller dans les villes où il y avait des anciens de Renault. J'ai oublié de dire qu'on avait été soutenus, parce qu'on a été accueillis au Maroc par 4 villes dont je vous ai parlé, mais on a été soutenus en France par 2 villes, celle de Saint-Denis, puisqu'elle était jumelée avec Tiznit, et celle de Boulogne-Billancourt, évidemment, qui nous ont soutenus dans la démarche. Et donc, on a vis-à-vis d'eux un engagement de rendre maintenant et de montrer et de partager l'expérience. Et là aussi... ça a été beaucoup plus difficile, parce que quand on est rentré, donc c'était en mois d'avril, le temps de rentrer début mai, très vite on est arrivé à la période de vacances, les gens se sont dispersés, et il y en a qui ont dit, mais attendez, c'est fini maintenant, on a fini, on a l'expérience, on l'a vécu, et on était quelques-uns à dire, mais non, on a fini effectivement la présence sur place, mais maintenant on a... à remettre en valeur, et donc on a un certain nombre de projets qui sont en cours, donc on essaie de le mettre en place, hein, on avance avec ça, donc de faire une brochure qui reprendra l'itinéraire de la caravane et puis les découvertes qu'on a faites, en y mettant les points positifs et les limites pour que ça serve justement de leçon et d'expérience pour de futurs voyages ou futures recherches, collectes de la mémoire. Donc ça, c'est un point. On a prévu, on a pris pas mal de photos, dont vous en voyez quelques-unes ici, et on voudrait faire un CD qui pourrait être mis donc, dans cette brochure pour être donné à tous les endroits où on est passé, à toutes les villes partenaires avec qui on a travaillé. Et donc ça, c'est pour nous, c'est important pour faire connaître cette expérience. Il y a eu, alors j'ai oublié de le dire, mais il y a eu, on a été suivi au départ en France par FR3 qui a filmé le départ. Quand vous avez vu les premières photos, quand on est dans la voiture, qui est, je vais faire de la pub pour Renault, un trafic qui était bien parce qu'on avait jusqu'au toit. Hein, là, je peux vous dire, on avait à peine la place pour mettre nos propres affaires puisqu'on on emmenait tout le matériel avec nous, donc d'exposition. Et donc, on a... au niveau de... Là, j'ai fait une digression et du coup, je ne sais plus où j'en étais. Veuillez m'excuser. Oui, au niveau de... Donc, au départ, FR3 donc, nous a... filmé au moment du départ, et donc il y a un petit film qui a été projeté sur FR3 au moment du départ. Comme ils étaient intéressés par l'expérience, ils sont venus sur place et ils ont filmé une des étapes de l'expédition, donc à Ait Melloul. Ils sont venus, donc ils ont suivi, ils ont rencontré des gens et tout. Donc il y a eu un reportage qui a été passé au mois d'août à la télé, qui est passé au mois d'août. Et au mois de mai. Au mois de mai d'abord et au mois d'août ensuite. Il y a deux fois où il a été projeté. Donc un reportage de 16 à 17 minutes donc, qui est possible de voir. Et tous ces éléments-là, il y a le projet d'en faire un film. Alors ça, on est en train de rechercher parce que ça coûte cher. Il faut voir comment on peut décrypter. Donc ça, c'était FR3. Mais là-bas sur place, aussi, on a été accueillis par la télévision marocaine, par des journalistes. Parce que quand j'ai parlé du CCME tout à l'heure, cet organisme qui est un organisme qui dépend de, qui a été mis en place par le roi Mohamed VI, hein, c'est pas une, et donc c'est une structure qui est liée à des intérêts du gouvernement qui veut valoriser et montrer comment l'apport de l'immigration dans les deux sens a été bénéfique à la fois pour le pays de départ des Marocains et aussi bien sûr pour ceux qui étaient les pays d'accueil. Donc c'est toute une entreprise qui est en train de se faire et qui développe des activités un peu partout. Mais du coup, comme c'était plus accentué, et je le dis comme là aussi, c'était à la fois ils nous ont permis de vivre cette expérience. Et c'est grâce à eux, parce qu'au niveau financier et au niveau de l'accueil, en lien avec les villes, c'est quand même eux qui nous ont permis de faire ce voyage. Mais pour eux, c'était quand même au niveau très limité de l'aspect immigration. Alors que nous, on tenait, même si on allait rencontrer effectivement les immigrants, les migrants qui venaient du Maroc, on voulait donner cette dimension d'une entreprise dans son intégralité, avec sa diversité, aussi bien de milieux d'origine, de milieux professionnels, de montrer que c'était une réalité beaucoup plus vaste que simplement l'aspect migration. Donc, il y avait, et ça c'est pour montrer, des intérêts communs, mais aussi des intérêts un peu différents au niveau de l'accent entre ceux qui nous accueillaient et puis nous, qui avions plutôt comme objectif d'aller là-bas pour collecter la mémoire. Et c'était vraiment notre... Alors, bon, j'ai peut-être empiété beaucoup sur... et puis moi. Peut-être que... Voilà, donc... Voilà. Excusez-moi, là, je ne me rends pas compte. Je croyais que j'avais rien à dire et puis
Je vais abréger moi. Je vais
16h20, pas plus de 5 minutes.
Allez, je fais en 5 minutes. Alors, les quelques problèmes que ça nous pose. On est convaincu que l'idée de la mémoire, en gros, il y a quand même trois ordres. Il y a le recueil, il y a la mise en forme et il y a la transmission. Sur le recueil, on a un certain type de problème objectif, c'est l'âge. Quand on cite Odette, si elle lève le poing, c'est parce qu'elle a vu des photos, on a montré l'expo. C'est la manière dont on pose les questions aux anciens, elle a vu l'expo, et c'est pas une militante. Elle a levé le poing, elle a chanté l'international, on est resté sidéré. Elle voyait des photos de 36. Elle était en 36, elle avait 19 ans, je crois. Bon, donc et la mémoire est revenue comme ça. Elle a raconté. Bon, donc on a un problème d'âge, de course de vitesse. Ça, c'est clair et on en a tout à fait conscience. On a un problème d'extériorité de l'entreprise maintenant. Pour la majorité, nous sommes en dehors. Moi, je viens juste de quitter, je dois être dans les plus jeunes. Enfin, il n'y a pas de problème. C'est un problème matériel du contact avec les anciens. Ça nous donne un peu plus de temps pour aller chercher, mais les retraités, il paraît que ça n'a jamais le temps. Donc, ce n'est pas toujours facile d'aller courir après les anciens. C'est un problème de coût. Parce que tout ça, c'est un coup, je ne reviens pas, Emmanuel l'a traité. La notion de le recueil de cette mémoire, il y a la notion de formalisation. Alors là, oui, il y a eu le film, il y a eu un livre. On sait pas, on avance petit à petit et on a un vrai problème de technicité. Nous sommes employés de bureau, ajusteurs, OS, certains... Mais personne n'est dans le cinéma. On gagne des gens à l'association, des enfants d'eux. Là, on commence à avoir une génération. des sociologues, des réalisateurs. Ah, bon, ces gens-là, on les tripe pour nous aider. Alors, on dit bienvenue, et ils adhèrent à l'association, on garde le lien. Donc ça, ça va nous aider, mais ça ne règle pas tous les problèmes sur être capable de faire cette mémoire. Exemple, Gwenaëlle a besoin de photos. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je viens avec deux clés, je viens avec des... On est incapable de proposer 20, 30, 50 photos parce qu'il y en a partout, parce qu'on sait, on n'est pas des professionnels du classement de la photo. Et on en a plein, on en récupère. Aujourd'hui, on va chercher un peu partout. Les anciens, par exemple, très peu ont des archives sur la Saint-Éloi dans les Forges-Fonderies. Les Forges-Fonderies, la Saint-Éloi, évidemment, il n'y avait pas de photos dans les années 40. Dans les années 70-80, il y en a. Il faut courir après. On les a, on récupère les copains, on scanne. C'est de l'amateurisme complet. Mais on sait que ça en passe par là. Et on sait qu'on est un peu les détenteurs. Une des voix, les détenteurs, c'est peut-être un peu prétentieux, mais nous sommes parmi ceux qui pouvons aller recueillir, chercher cette mémoire. Donc ça, c'est sur la formalisation, nos difficultés réelles. Parce que le but, on nous a demandé d'introduire aussi les notions de difficulté par rapport à la recherche de la mémoire. Et ce n'est pas la motivation qui nous manque. Hein. Et dans la transmission, on sent un peu mieux. Alors, on sent au sens qu'on a déjà fait, hein, avec les écoles, les institutions, on sait faire. On nous appelle, on arrive à travailler avec des facs, aussi bien jusqu'au primaire. On a fait des trucs avec le primaire. C'est passionnant. Bon, quand des enseignants s'accrochent, veulent transmettre des choses à leurs élèves, c'est une histoire de motivation. Ça, on sait faire. Par contre, ce qu'on ne sait pas encore, c'est ce que sera le lieu de mémoire. Parce que cette mémoire, elle est tellement riche, tellement plurielle, qu'il y en a partout. Tous les instituts, toutes les organisations syndicales ont des choses. On pense qu'il faut qu'il y ait un lieu central, non pas pour centraliser ces éléments, mais les technologies aujourd'hui permettent des liens avec la BDIC, avec Roubaix, avec un certain nombre d'institutions, les universitaires, sont un apport. On commence à apprendre à travailler avec chacun, ce qu'on ne savait pas forcément faire. L'empirisme nous fait être plus prudents parce que notre mémoire, elle est parfois utilisée, pas forcément comme on le voudrait. Elle peut être déformée. On est attentif à ça. On apprend aussi en marchant. Et donc, la dernière partie, c'est un peu sur ce problème, j'ai envie de dire, plus politique, au sens noble du terme, qui est de la diversité. On est convaincu que la mémoire ouvrière de Billancourt, au sens large, pas au sens ouvrier, voilà, vous m'avez compris, mais la mémoire ouvrière de Billancourt, c'est quelque chose de plus large. C'est quelque chose de pluriel, qui est très diversifié en termes de métier, en termes d'individuel ou collectif. Parce que souvent, enfin, même c'est Emmanuel qui le disait souvent, c'est un peu comme une mosaïque, en fait, hein, de mémoire individuelle, de qui dans son coin, sa propre petite histoire à pouvoir raconter, celui de son père, de son grand. Parce que c'est des générations de Renault, hein. C'est pas grand-père, c'est arrière-grand-père et des dizaines de personnes dans l'entreprise, souvent. Donc, c'est cette mosaïque de mémoire et qui est diversifiée et presque antagonique, parfois. C'est évident que lorsqu'on était directeur de l'entreprise ou ouvrier licencié par ce directeur, on n'a pas la même mémoire sur le même moment, à la même heure, dans la même salle. C'est naturel. C'est évident. Donc cette mémoire-là, elle doit avoir sa place avec toute cette richesse. Donc, et je conclurai là-dessus, un des problèmes qu'on va avoir maintenant sur le lieu de mémoire et sur lequel on va être très attentif, qui dirige, qui paye, qui décide. Est-ce qu'on peut faire un colloque sur la discrimination raciale à Renault? Est-ce qu'on peut faire... Je donne des exemples toujours un peu provocateurs à des responsables d'autres associations. C'est ça l'enjeu aussi de la mémoire. En ça, on ne cache pas que l'association avec les institutions universitaires doit être une aide à prendre du recul et à être nous-mêmes moins engagés. On ne va pas se cacher parce que nous, souvent, on a une propre histoire forte. Chacun des individus de l'association ou des gens rencontrés, qu'ils soient à notre association, sont une histoire, sont un morceau d'histoire qui peut avoir été conflictuel avec un tel, ou avec la production, ou avec le système. Donc c'est un peu ça aussi l'enjeu. Donc maintenant, on a un travail énorme, mais en tout cas, on est convaincu que si ça c'est pas formalisé et si on n'avait pas, si Atrice n'avait pas existé, on ne parlerait pas aujourd'hui comme ça de la mémoire de Billancourt et ça ne serait pas dans les projets. Je parle de projets parce que moi, tant qu'il n'y a pas le lieu, l'argent, le financement et qui dirige, on ne dit rien de plus, on travaille. Merci.
Merci beaucoup.
Venel, est-ce que tu veux dire quelque chose de plus?
Non, juste montrer quelques photos qui m'ont été transmises par Patrick. Là, je pense que c'est des photos de professionnels. Hein, j'ai retrouvé la source, je crois que c'est le journaliste de Paris Match qui a fait un petit livre là-dessus. Donc j'ai retenu, là, moi, j'ai fait ma propre sélection, en fait, les photos qui montraient l'œuvre de destruction sur l'île Seguin, en l'occurrence. Donc c'est en 2004 hein, que ça a commencé à être détruit. Donc j'ai fait ma sélection. Donc là on voit rien qu'en sélectionnant des images, eh bien on oriente aussi le regard. Hein. Alors j'étais frappée quand même sur l'accent mis sur les images, le film. On a l'impression que je vais provoquer un petit peu que pour vous les images sont peut-être plus importantes que le reste. Enfin, est-ce que vous faites une hiérarchisation des sources dans toutes les sources que vous récoltez? C'est une question un peu en suspens que je vous pose. Par rapport à ces images de destruction, j'ai voulu contraster avec celles qu'on n'a pas encore vues, hein, qui sont celles de l'expérience du travail. Donc là aussi, j'ai fait des tris. Patrick m'avait passé des images aussi sur mai 68, etc. Donc des symboles forts de Renault. Alors Renault, c'est quand même quelque chose qui est particulièrement affectif. Hein. Pierre Nora disait que la mémoire est une affaire sentimentale, je dirais, pour Renault, c'est plus vrai que vrai. Donc c'est aussi dur à refroidir. Alors je ne sais pas s'il faut refroidir d'ailleurs. Alors ce qu'était l'usine, donc là, photo difficile à dater. Donc ça, là j'ai subi. Donc je pense que c'est une très ancienne photo. Ah, je pense que c'est avant-guerre, parce qu'on voit encore les fumées. Voilà. Hein, vas-y, tu vas. Un peu plus récent, donc je pense que c'est années 50, celle-là. Mais on ne voit pas trop la différence, sauf que l'angle n'est pas le même. Donc on voit quand même toute la zone industrielle autour de l'île. Hein, tout ne se joue pas sur l'île. Hein, si vous voyez ici, là, une des particularités, c'est que la chaîne était sur plusieurs étages. Hein, donc c'était assez étonnant. Alors voilà quelques photos un peu éparses. Le montage du moteur... donc je pense que c'est
le transfert emblématique du 14, c'est-à-dire que c'est la première chaîne transfert de montage d'usinage d'un moteur et de la culasse. Enfin, c'est un ensemble de machines qui sont, et ça date de juste après-guerre. C'est voilà, Béziers qui est l'ingénieur.
Je dois avoir une image de la presse transfert. Donc ça, c'est la chaîne moteur. Je pense que c'est après-guerre aussi, hein, on va dire. Donc vous voyez l'espace assez étroit. Ça c'est une opération de lavage aussi. Alors, c'est des très belles photos, je pense qu'il y a ces photos fonderie, je sais qu'il y a un spécialiste de la fonderie dans la salle, donc il pourra peut-être dire ce que c'est plus précisément, la technique, etc. Donc il y a, vous voyez, il y a une fascination, enfin ces images sont belles en soi, donc voilà. Donc c'est toujours pas loin de la fonderie. Fonderie aussi, donc là, avec l'estampillage peut-être. Estompage, pardon, merci. Donc montage moteur, donc là on est plutôt dans le montage, opération de moteur. Donc il y avait une très belle série de photos, mais là j'en ai pris que quelques-unes, mais il a un trésor entre les mains qui pourrait être un peu mieux rangé, mais c'est pas grave. Alors ça, je pense que c'est la presse transfert, hein, enfin les machines transfert. Alors sachant qu'entre Renault et les sociologues, il y a une histoire d'amour, hein, puisque la première enquête de sociologie du travail a été menée par Touraine dans la fin des années 40. Donc on est très aussi affectivement attaché, scientifiquement et affectivement attaché à ce site. Et je n'ai pas résisté à la présentation de la 4 chevaux, qui était aussi la première voiture de mon père. Chacun. Je trie affectivement aussi, donc avec des photos assez étonnantes de la chaîne. Donc à Flin, donc on voit aussi les verrières au-dessus. Ça, j'étais frappée par cette photo, parce que vous voyez les sandales, les pieds nus et sandales qu'on accroche. Donc si ça tombe, on imagine ce que ça peut faire. Donc là, dans les usines automobiles, il y a des chaussures de sécurité qui sont mises. Voilà. Oui, il a des gants. C'est coupant. Ça coupe comme du rasoir. Hein. Donc là aussi, d'autres opérations. Alors, il y a peut-être un peu de soudure. Oui, c'est de la, des pinces, on voit des pinces à souder qui sont très très lourdes. Là, autre. Alors, on ne voit pas trop l'opération, mais ce que j'ai aimé, moi, c'est le regard, la tête qu'on voit entre le coffre et puis le bloc moteur.
Si, c'est l'assemblage du haut et du bas.
Le mariage hein, qu'on appelle. Hein, ça. Oui, la tête au milieu, il y a qui est fondue dans le. Voilà, donc. Là aussi, une autre image qui, dans la peinture qui était point important. Extrêmement toxique. Hein. Pendant longtemps, d'ailleurs, on ne pouvait pas aller faire de recherche en peinture, ni visiter les ateliers de peinture. Maintenant, ils ont rajouté de l'eau, c'est moins toxique. Et voilà, c'est plus comme ça. Puis c'est automatisé davantage. Absolument. Et puis, j'ai voulu terminer sur cette photo magnifique, voilà, de montage de roues pour clôturer un petit peu. Peut-être laisser la place aux questions, ce que j'ai pas.
Avant, j'ai quand même deux choses que j'ai complètement omis. Une qui est quand même, tout le monde doit avoir en toile de fond, derrière. C'est les luttes sociales, c'est le mouvement ouvrier, ce sont les conquêtes ouvrières. C'était dans la présentation, parce que sinon on peut avoir tendance à tordre trop dans ce sens-là. Mais il faut rappeler quand même que c'est la toile de fond derrière. Et puis le deuxième, qui est un aspect sur lequel je commence un peu à travailler, c'est sur dans la collecte, un exemple de la collecte de la mémoire, elle est humaine, elle est des métiers, elle est de la matière. Et je parle de la perruque, par exemple, qui est un exemple d'une problématique qui est il n'y a que le mouvement ouvrier qui soit détenteur, les militants, non pas les militants, les salariés qui ont travaillé. Et c'est tout le transfert du travail, de la compétence professionnelle qui était transférée dans la perruque et qui, maintenant on cherche après, parce que quand elle est rouillée ou qu'elle est dans le jardin, on a du mal à la retrouver. On cherche parce qu'avant c'était interdit et motif de licenciement, maintenant on fait des colloques et on peut passer à la télé. Donc cette histoire de perruque, c'est aussi un élément de constitution de la mémoire ouvrière, de constitution et de restitution, parce que les gens étaient fiers de ce qu'ils faisaient, et quand il y en a sur... j'arrête, il y a des objets, des vrais objets d'art qui sont chez certains.
Merci.
Donc, une petite dizaine de minutes.
J'ai dit qu'on allait faire la pause à moins le quart, donc... Peut-être que j'anticipe, vu que je me rends compte qu'on est en retard et que je m'occupe aussi de la nourriture.
C'est pour ça que je nous donne une dizaine de minutes.
Absolument. Voilà, vous avez une dizaine de minutes. Merci beaucoup à tous les trois. À tous les quatre.
Oui, je ne sais pas si ça vous réchauffera le cœur, mais nous, on a récupéré en Poitou-Charentes la fonderie, qui est à Châtellerault, qu'on a eu l'occasion de visiter lors de la fête de la science. Et donc, voilà... On a pu visiter pendant 3 heures les nouveaux moteurs qui sont maintenant en fait une filiale autonome et qui travaillent beaucoup avec Fiat. Enfin, bon, voilà. Une petite question tout à fait, parce que ça n'a jamais été évoqué. Quand j'étais un petit peu plus jeune, j'ai lu Le Poulpe, j'ai lu un peu de Polar. Et dans cette littérature, on évoque assez régulièrement une certaine classe ouvrière, plus ou moins des bas-fonds parisiennes, mais quelquefois assez précisément Billancourt, ou si ce n'est pas Billancourt, c'est des gens qui s'y associent. Donc, une des questions, c'est est-ce que vous avez envisagé, parce qu'il n'y a pas que la littérature policière qui s'est intéressée à Billancourt, est-ce que vous avez envisagé de vous intéresser à cette partie qui n'est pas une mémoire exacte ? Ça n'est souvent pas des faits réels ou avérés, mais c'est un aspect, me semble-t-il, quand même de la mémoire que des écrivains, des auteurs divers et variés, qui quelquefois, quand ils ont été jeunes, ont pu être fils eux-mêmes d'ouvriers de Renault, se soient intéressés à Renault et en effet des œuvres, alors des polars ou une littérature de gare ou autre chose. Mais est-ce que vous avez envisagé ce thème-là dans vos travaux ?
Je dirais non. On sait que ça existe et on en lit, nous, des livres, parce qu'on apprécie, on essaie de récupérer les bibliographies existantes dans différents domaines, d'ailleurs, que ce soit des sociologues, que ce soit des romans, que ce soit des comment on appelle ça, les polars, je cherchais d'autres. Mais en fait, ce n'est pas notre objectif. Nous, on est plutôt centré sur les gens qui sont encore en vie maintenant. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'il existe plein de choses, on lit, et nous, on a découvert la mémoire, je dirais presque, après avoir quitté l'entreprise. Parce que pendant qu'on était dedans, on ne se préoccupait pas de récolter ni de faire la mémoire, on vivait l'instant présent. et on a pris conscience de, cette, de la nécessité de la garder le jour où on a vu que les murs disparaissaient, qu'on s'est dit si les traces, même là, elles vont disparaître, nous, traces vivantes, elles vont aussi disparaître. Donc c'est là où il y a l'urgence. Et nous, notre priorité, je dis nous en tant qu'actrice, hein, parce qu'il y a des gens qui font des études, qui vont travailler dans la sur les archives, qui vont travailler sur des documents photos. Sur... Nous, on les récupère, mais ce n'est pas notre objectif principal. C'est de dire, il y a des gens en vie, nous aussi. Ça va durer quoi encore maintenant pendant 30 ans? Parce qu'on on vivra peut-être un peu plus longtemps, mais on deviendra aussi peut-être complètement gâteux et incapable de raconter notre histoire. On se dit, c'est maintenant qu'on a la capacité de rencontrer des gens, de les faire parler, de capter ce qui est possible, de filmer, d'enregistrer. Et c'est ça l'urgence pour nous. Et c'est là où on peut apporter quelque chose de plus que ce que font d'autres personnes qui sont beaucoup plus qualifiées que nous pour faire des recherches de ce genre.
Oui, pour rebondir, je pense que votre question est fondamentale. Il me semble que, là, on sent une course contre la montre et donc une nécessité de hiérarchiser les priorités. Il me semble effectivement que la littérature, c'est un point d'ancrage de la mémoire, sachant que les écrivains peuvent être aussi des enquêteurs de fait. Et je voudrais donner deux exemples. Un qui concerne Billancourt, justement, l'ouvrage de Martine Sonnet, Atelier 62, qui est un roman écrit par une historienne dont le père a travaillé à Billancourt. Donc, il y a un mélange très intéressant, et alors elle dit que c'est un roman et qu'il y a de la fiction, etc., sauf que c'est quand même la mémoire de sa famille et qu'elle l'a mis sous une forme littéraire, et justement parce que c'est une forme littéraire, ça a une autre portée et ça peut justement dire des choses qui ne passent pas par des mots qu'on va trouver qui sont parfois désincarnés dans la littérature dite historienne ou scientifique. Et moi, enfin, je suis d'ailleurs très preneuse de références de polar, si vous en avez autour de Billancourt. Autre exemple, le lien qu'il peut y avoir entre la littérature et la photographie. Hein. Il y a eu un ouvrage de Stéphanie, un photographe, qui a été commenté par François Bon, qui est un écrivain qui fait des choses remarquables sur l'usine. Il raconte de manière très romancée sa vision qu'il a de Billancourt à partir de ses photos, mais aussi de sa propre expérience ouvrière, pas forcément chez Renault, même si, d'après ce que j'ai compris, il a dépanné, il a travaillé un petit peu à Flins comme intérimaire. Mais en tout cas, il y a une sorte de rassemblage de mémoire un peu universelle qui va passer par l'écriture. Et heureusement qu'il y a cette écriture-là pour en rendre compte aussi. Donc je pense que ça fait partie de cet ensemble. Et que quand vous dites, vous avez dit que ce n'est pas une mémoire exacte, je ne sais pas s'il existe de mémoire exacte, oui, puisque par définition, on trie, y compris les historiens. Donc c'est une mémoire parmi d'autres, enfin une trace de quelque chose parmi d'autres.
S'il n'y a pas de questions, je voudrais ajouter un point, parce que ce matin, François parlait aussi de la mémoire tertiaire. Je pourrais vous dire que Renaud, justement, alors moi, je n'ai pas travaillé dans les ateliers, j'ai connu, puisque j'étais déléguée du personnel, et j'ai été déléguée dans des secteurs d'ateliers, mais j'ai partagé la vie du monde tertiaire. Et l'avantage de cette entreprise, c'est qu'elle avait des gens de différents statuts et au niveau du travail, et qu'on pourrait témoigner de luttes, de choses qui se sont passées, mais pas de lutte au sens de grandes grèves qui bloquent la production, mais dans des secteurs, là où j'étais, à la comptabilité, de mouvements qui ont été faits, de femmes qui ont arrêté de travailler en disant, et je vous dis, ça n'a pas bloqué la production, mais n'empêche qu'on a obtenu des choses simplement parce que les gens réagissaient. Donc cette mémoire-là aussi, on peut l'avoir dans une grande entreprise comme Renault. Deuxième aspect aussi important, on parle beaucoup des hommes, mais il y avait des femmes là. Je peux vous dire, bon, la preuve, c'est que j'y étais. Mais il y a eu, et c'était une des rares entreprises où il y a eu, un groupe femme d'entreprise qui a existé au moment du féminisme et qui, on espère bien raconter cette histoire aussi, parce que c'était une histoire très particulière dans une entreprise composé essentiellement d'hommes, mais qui a eu un rôle tout à fait par rapport, y compris avec le MLAC, mouvement sur l'avortement et la contraception, je peux vous dire. Et dans l'entreprise, il y a eu des activités liées à ça. Donc c'est pour montrer, parce que dans une entreprise, la vie extérieure, elle rentre dans l'entreprise. Nous sommes, et ça c'est une des choses qu'on a toujours essayé d'expliquer, nous restons dans l'entreprise des citoyens. On est des ouvriers, on travaille, mais on est aussi des citoyens à part entière. Et on a toujours essayé de défendre cette idée. Et alors, quand on est citoyenne, c'est effectivement encore plus important de montrer qu'on reste femme dans l'entreprise et qu'on n'est pas seulement ouvrière pour avoir l'égalité du salaire, mais aussi une place en tant que femme.
J'ai une question, excusez-moi. Je m'excuse quand j'ai des questions. Mais... Bon, vous avez parlé de l'émotion. Je pensais à la conférence qu'avait donnée M. Prochasson ici sur l'empire des émotions. Comment fait-on quand on a travaillé dans votre entreprise, quand vous nous avez beaucoup parlé d'émotions, des gens qui se retrouvent entre eux, l'émotion que vous avez fait passer ici, dans cette conférence formidable. Comment vous gérez l'émotion? Parce que l'émotion, ça peut être du premier degré. Donc vous parlez d'empirisme aussi, vous parlez de classement. Alors les sociologues parlent de l'émotion, mais ils ont l'émotion, si vous voulez, ils ont scientifisé l'émotion, si je puis dire. Les historiens aussi, d'où le livre de Prochasson, pas toujours. Donc comment fait? Parce qu'on voit très bien que c'est vraiment, enfin qu'il y a quelque chose de très fort là. Et donc je voudrais savoir comment vous arrivez à, le terme n'est pas joli, mais comment vous arrivez à le gérer tout ça, parce que vous devez avoir plein d'émotions autour de vous, et pas seulement aussi que du bonheur. On a vu les photos très esthétisantes de Paris Match, mais franchement il y a des gestes que je ne ferais pas, hein, parce qu'il y a aussi de la douleur là-dedans. Donc comment vous gérez tout ça par rapport aux gens que vous avez en face de vous?
L'émotion, on n'arrive pas vraiment à la gérer. Elle transparaît dans les rencontres, quand on a parlé tout à l'heure, quand on fait des projections, par exemple, des expositions. Il y a des gens qui viennent, ils voient le film, ça évoque pour eux des souvenirs. Il y a des gens qui pleurent. Il y en a d'autres qui tombent dans les bras l'un de l'autre, qui s'embrassent. Ça, c'est des moments d'émotion. Ça rappelle des souvenirs terribles parfois, y compris dans la vie des gens. Dans le film dont je vous parlais, Mohamed raconte à un moment qu'il y a un de ceux qui travaillait sur la presse qui se fait écraser par une presse. Et ça, tout le monde est paralysé. Et quand on évoque ce genre de choses, c'est des souvenirs d'horreur qui nous reviennent. Dans les bureaux, moi j'ai une collègue qui s'est suicidée dans les toilettes de où on était. Et bon, c'est terrible quand on a tous ces souvenirs qui reviennent, parce que cette vie, c'est 30 ans, 40 ans, 40, c'est parce que c'est on restait pas 3 ou 4 ans dans l'entreprise, c'était des périodes longues, et généralement c'est des expériences sur la longue durée, et c'est toute notre vie adulte avec partage d'événements joyeux et tristes dans la vie, et quand je disais qui pénètre dans l'entreprise, ça aussi, ça fait partie de cette émotion, de tous les événements qui touchaient les uns et les autres, et qui nous touchaient. On le gère pas, en fait, on l'exprime.
Que ça va être la dernière question, oui. Malheureusement.
J'avais une question, mais qui est finalement un peu pas la conclusion, mais la suite. Juste, parce que cette expérience, en fait, elle a été menée aussi à Nantes quand les chantiers navals ont fermé dans les années 80. Il y a eu le même travail de récollement de la mémoire. Et puis, à un moment donné, donc une fois que les anciens ouvriers ont été interrogés, le recueil de la photo, il s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on faisait de cette matière. Donc à ce moment-là, il y a les collectivités publiques qui étaient là, et puis il y a eu la restructuration du château des Ducs de Bretagne, vous avez peut-être vu, avec cette salle magnifique qui est consacrée à la construction navale. Mais moi, ma question, c'est de savoir aujourd'hui quels sont les projets sur Billancourt de valorisation, de... Vous avez dit qu'ils sont en question aujourd'hui.
C'est vraiment notre problème. Nantes, on a travaillé avec la maison de Nantes parce qu'on a un intérêt à échanger. Il y a très peu d'usines en France de cette dimension-là ou de secteur qui aient travaillé sur la mémoire. Ça, c'est une réalité. Après, bon, voilà, on bosse et on se met en lien et on aidera tous ceux qui voudraient le faire, et puis ceux qui ont déjà avancé, on va récupérer. Pour nous, de ce qu'il en est, c'est pour ça qu'on a centré une partie de notre activité sur le lieu de mémoire. Vous verrez sur la table, il y a une série de revues de presse. On n'hésite pas à utiliser Le Parisien Libéré, les médias et tout ça pour harponner. On ne tombe pas à côté du maire sans lui serrer la main et la bloquer jusqu'à ce qu'on lui pose la question et le lieu de mémoire. Alors, où on en est? Alors, on le fait fréquemment, ils nous connaissent parce qu'on n'a pas peur, voilà, c'est une tradition. Et les maires le savent, tous les maires.
On a même fait une...
Oui, vous verrez. Enfin, bon, on fait des opérations médiatiques parce qu'on sait qu'on veut. On n'a aucune illusion, mais en pesant un peu là-dessus, on a fait un appel signé par des universitaires, des grands noms, dont Jean Nouvel, Georges Segui, machin. On a été chercher tout ce qu'on peut trouver comme moyen pour les obliger à s'engager. Pour l'instant, alors là où on en est, je finis là-dessus, il y a un certain engagement de la mairie de Boulogne à dire oui, en gros, il y aurait un lieu de mémoire de 1000 mètres carrés. Voilà, c'est une abstraction, il n'y a pas d'argent à côté. Et, mais ça peut durer des années, parce que les projets sur l'île Seguin, ce n'est pas pour un an ou deux ans. Ça ne verra pas le jour avant 5, 6, 10 ans peut-être. La seule chose, par contre, il y a peut-être une petite opportunité, alors je n'irai pas plus loin parce que je manque de confirmation, c'est que la mairie, le nouveau maire de Boulogne, Baguet, veut absolument que les terrains y soient occupés dès la rentrée, enfin dès le printemps 2010, il veut qu'il y ait un square dans l'île Seguin. Avant, il y a les projets qui continuent, là je vous renvoie à la presse, il y a des tas de projets culturels, mais médiatiques, machin, mais il veut qu'il y ait un parc où les Boulonnais puissent aller se reposer. Et là, l'institution ABCD, qui est l'organisme choisi pour travailler sur un lieu, sur une préfiguration d'un lieu de mémoire, a fait une proposition, bon, alors c'est public, donc je veux le dire, ils disent, chiche, allons-y, proposons avant les 1000 m² qui verront le jour que dans X années, pour qu'il y ait un début de travail sur un lieu de mémoire, peut-être plus modeste, moins cher, ils ne mettront peut-être pas autant d'argent, mais allons-y. Donc nous, on est dans cette problématique-là aujourd'hui, on a dit chiche aussi, on y va, on est prêt à bosser avec tout le monde là-dessus. Donc là, il y a le problème des financeurs, mairie, Renault, mais c'est plutôt la ville.
Tel que ça se configure, c'est un pavillon, ça, c'est quelque chose, c'est le plus petit commun dénominateur, ouais. C'est un pavillon où il y aura des photos. Apparemment, l'appui, c'est principalement audiovisuel. Voilà, donc ça va pas forcément très loin, mais l'idée, c'est effectivement...
C'est d'ancrer.
Que matériellement, il y ait quelque chose pour créer une sorte d'effet d'irréversibilité. Jusqu'où ça pourra... Qu'est-ce que ça pourra déclencher ? On n'en sait rien, parce que les enjeux sont énormes. Il y a des enjeux politiques énormes entre l'entreprise, la mairie, les associations, etc. Et c'est vraiment un équilibre très, très délicat. Mais par contre, ce qui est bien, c'est quand même il y a une convergence, c'est-à-dire il y a aussi un accord minimal pour faire quelque chose. Donc c'est ce qui n'était pas forcément acquis au départ. Donc, c'est.
Oui. Bah, j'espère. Il y a une chose qui est très importante, effectivement, dans tout ce qu'on a entendu depuis ce matin, c'est l'introduction en fait de la citoyenneté dans l'entreprise. Et il y a une chose qui me paraît encore plus importante maintenant, c'est ressortir cette citoyenneté par l'intermédiaire de cette mémoire. Alors bon, on pourra peut-être conclure sur ce genre de choses, mais je crois que c'est là l'élément important.
Vous avez le don de poser des questions qui n'exigent pas de réponse et qui vont nous permettre
de faire une pause de 10 minutes. À tout à l'heure. Merci à vous quatre.